Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 62e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on se retrouve pour l'avant-dernière de la saison du podcast avec Lolo. Salut Lolo.
Hello Sei, on est que deux ce soir.
On est à la bourre. C'est un petit peu compliqué de mettre en place cette émission pour tout vous dire. C'est pour ça qu'on aura quelques jours de retard. Voilà. On s'en excuse, mais bon, voilà, c'est l'occasion de rappeler qu'on n'est pas des professionnels, qu'on a des vrais travails à côté, qu'on a des vraies vies de famille et que c'est un petit peu compliqué de temps en temps pour se caler. Mais on peut.
Et que l'actu n'est pas folichonne non plus. Hein.
Ouais, mais il y a quand même deux, trois petites choses à dire.
Mais disons que plus on attend, plus on peut dire de choses.
c'est une petite technique, en fait.
Il faut remplir le panier avant.
Exactement. La prochaine émission sera dans 2 mois et demi, à peu près. Et donc, comme ça, on aura pété de trucs à dire. Ça sera parfait. Avant de commencer, je voulais faire un petit coucou à tous ceux qui nous ont rejoints sur le Discord et qui sont plutôt actifs. Alors, ça sera dans le désordre, je vais peut-être en oublier. Désolé d'avance. Hein, Donc, par exemple, on a Sebasque81, Philippe C qui est extrêmement actif. Il y a Mig, bien sympa, José Playwalker. Il y a Herbie qui nous fait un petit coucou de temps en temps, ça nous fait bien plaisir. Il y a d'autres, il y a Darkange, il y a Danur, etc. Donc voilà, on vous fait des bisous, toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord qui est bien sympa, avec plein de gens qui sont cool et qui échangent, vous créez votre compte et puis vous allez cliquer sur le lien qui est en haut à droite sur le site et puis vous venez discuter avec nous. Toujours de bonne humeur et toujours dans le respect des autres et ça se passe bien.
Il y a un lien sur Discord en haut à droite du site et tout en bas dans le pied de page à droite aussi. Donc il suffit de cliquer dessus et après vous pouvez rentrer sur le Discord.
Voilà. On remercie aussi ceux qui nous ont rejoints sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais c'est vrai que moi, comme j'y fous plus trop les pieds parce que je suis pas trop apprécié là-bas, du coup, je sais pas trop comment ça se passe. Écoute, mon petit Lolo, on va pouvoir commencer avec la foultitude de jeux qui ont été soit représentés, soit des petites nouveautés il y a une semaine à peu près.
C'est ça. On avait déjà commencé un peu à pleurer en début de semaine en disant putain, il y a vraiment pas grand chose à dire au niveau du PSVR. On va pas s'en plaindre, on le sait, il est en fin de vie et il faut le mener jusqu'à sa fin de vie, ce petit PSVR. mais c'est vrai que c'est difficile pour nous parce que étant un peu quand même bien spécialisé PSVR, faut trouver quand même des news et puis surtout un public qui continue d'intéresser. Soudainement, du jour au lendemain même, il y a Sony qui a décidé de proposer une petite série de jeux. Donc avant ça, on avait quand même eu des nouvelles de Yuki, le jeu de Arvor. C'est les développeurs de Pixel Rift 1989 et 1995, qui sont d'excellents jeux. On a vu un nouveau trailer. Globalement, c'est quoi Yuki ? Vous allez incarner un enfant qui est fan d'un personnage de dessin animé, qui est une petite figurine. Et vous allez pouvoir contrôler cette petite figurine pour vous envoler dans des mondes imaginaires, le monde de cette figurine. Ça va pas se jouer qu'à la manette, ça va être quelque chose qui va être aussi physique. Alors j'ai pas encore exactement compris le principe du gameplay, mais apparemment il va falloir bouger les bras. C'est un mélange entre un bullet hell et un roguelike, mais qui rajoute également des mouvements dans son gameplay. Ça a l'air joli. Il y a des passages qui me font penser un peu à du space arrière, des trucs comme ça.
Carrément.
Voilà. Pour l'instant, vu l'excellente la qualité de leur ancien jeu, moi je suis curieux pour Yuki de toute façon.
Surtout Arvor, c'est vraiment. Ouais, c'est ça en fait, qu'on retrouve un petit peu, enfin même carrément leurs pattes, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit garçon fan d'un jouet, etc. Donc du coup, il va y avoir encore un mélange entre le réel et puis le virtuel, tout ça mélangé voilà dans un casque, c'est toujours très 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 bizarre. Mais je sais qu'en général, moi qui ai fait leurs deux jeux précédents, ça fonctionne super bien quoi. Ils ont vraiment cette art de mélanger un petit peu quand tu mets ton casque, en fait, tu tombes dans une réalité et tu vas te plonger dans le jeu, dans une autre réalité encore. C'est une sorte, un truc un petit peu à l'Inception. Et j'aime bien. Moi, j'aime bien
mais je pense qu'il y a moyen. Donc, plutôt une bonne nouvelle, un jeu à surveiller. Et il y a encore quelques jeux qui arrivent. Donc, bon, c'est sûr qu'avec les grosses chaleurs qui vont arriver avec l'été, on n'a pas forcément toujours envie de se mettre un casque non climatisé sur la tête.
Surtout que tu dis que va falloir bouger, et ça, voilà. Ça fait un petit peu peur.
Ça me rappelle, c'est lequel qu'on avait testé en plein mois d'août, Pistol Whip.
Oh, Pistol Whip, ouais, putain. Alors, super jeu, mais alors.
À 40 degrés dans le test, moi j'avais perdu 15 litres de flotte, donc.
T'en peux plus, quoi. T'en peux plus à la fin.
Voilà.
Ah, c'est clair.
Donc, bonne pioche, à mon avis, c'est un jeu à surveiller, et puis on vous en dira plus dès qu'on en saura plus. C'était ce jeu-là, et puis à partir de là, on a dit, bon, bah, c'est super, on n'a que Yuki pour la semaine, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il va falloir trouver des sujets, les cocos. Et donc, c'est là qu'est arrivé à la rescousse le PlayStation Blog, qui, subitement, sans prévenir, se sont dit, écoutez les gars, on va vous sortir un jeu toutes les 30 minutes. Dans le lot, il y avait en fait, il y a pas mal de monde qui ont dit qu'il y avait 7 nouveaux jeux PSVR annoncés par Sony et tout ça. En fait, il n'y en a que 2, il n'y en a pas 7, faut relativiser. En fait, il y a eu vraiment 2 jeux annoncés la semaine passée. Donc, c'était Arashi Castle of Sin. Ça, c'est un jeu de ninja, tout ce qui est de Japon médiéval. Moi, ça me fait un peu penser à j'ai encore bouffé le nom, j'en ai parlé tout à l'heure, comment il s'appelle déjà?
Ouais, Sariento.
Sariento, en plus joli.
Ouais. Et en beaucoup plus médiéval aussi, parce que Sariento, c'était quand même du fantastique.
Oui, c'était du futuriste. Après, apparemment, il y a quand même dans le gameplay, il y a quand même un scénario, il y a quand même, donc c'est là où ça va différer de Sariento, où c'était du bourrinage. Hein. Sariento, c'était niveau, on enchaînait les niveaux et on coupait tout ce qui passait. J'ai l'impression qu'il y a quand même, une histoire. On va rencontrer une cousine, je crois, qui va nous rendre service, qui va nous aider. Je sais plus comment elle s'appelle, la cousine Ayane.
Et donc Ayane.
Ayane, ouais.
Ayane, c'est, je sais pas si c'est un clin d'œil justement au premier Tenchu, où la fille que tu pouvais incarner, c'était Ayane aussi, il me semble.
Ah, je sais pas.
Il me semble. Ouais.
Et on a un deuxième personnage, ça va être un loup qui s'appellera Haru. Et là, je sais pas justement, est-ce qu'on va pouvoir piloter en VR le loup pour prendre sa place. En gros, par contre, ils promettent la panoplie du ninja. Donc, on est loin de Ninja Legend aussi, qui n'était pas non plus extraordinaire. Donc, bon, bah, ça va être des machins de fumée pour disparaître. Ça va être de la furtivité puissance 100. Et puis des combats au sabre. Et puis ça, je pense qu'il faut voir ce que ça donne. Globalement, il n'a pas l'air vilain du tout.
Ouais, il a l'air vraiment très très joli. Vous pouvez voir les screenshots sur le site. Mais c'est vrai qu'un côté un peu plus posé avec de la furtivité, ça pourrait être pas mal dans ce genre de jeu. C'est vrai que moi, ce que j'avais reproché un petit peu à Sariento, c'est son côté un peu trop épileptique, à devoir toujours bouger. Graphiquement, je l'avais pas trouvé foufou, et puis c'est pas un jeu que j'avais particulièrement accroché, quoi.
Ah non, Sariento, il était plutôt laid.
Celui-là, je l'attends bien.
Même au niveau de ses graphismes, au niveau de ses environnements, c'était pas terrible. Là, on a l'air d'être quand même sur du niveau, le niveau au-dessus. Après, il va falloir voir le dosage entre le scénario, les petits moments de furtivité où on est au calme, les moments de combat. Si c'est bien dosé, ça peut très bien passer.
En tout cas, belle ambiance.
Donc un bon nouveau jeu annoncé, une vraie nouveauté par contre, parce que on n'en avait absolument pas connaissance avant la semaine dernière. Donc ça, c'était la première grosse nouveauté. Il faut préciser quand même que Arashi Castle of Sin sortira en version physique. Ça a été annoncé par Purps Games. Donc il y aura un coffret spécial. Alors, qu'est-ce qu'elle a été l'annonce exactement? Nous sommes en train de préparer la sortie physique de Arashi Castle of Sin sur PSVR et nous sommes très excités. Sortie prévue en été 2021. Et autre chose à préciser, c'est que tous ces jeux annoncés là, à la va-vite la semaine dernière sont quasiment tous prévus pour cet été. Donc il n'y aura pas beaucoup à attendre.
Donc prévu pour cet été, quand les gens seront à la plage en train de se baigner et puis de draguer les minettes.
Okay, et qui se diront, putain, il fait trop chaud pour que je sorte mon casque vert.
Exactement. Ouais, c'est encore, voilà. Ça, c'est un bon move encore. Hein. C'est pas mal. J'ai jamais compris ce genre de choses.
Mais bon, moi non plus. Parce que c'est vrai que tu lances ça en septembre, les gens sont contents. Ils se disent, ah, bah, ça y est, on est un peu mieux. Ouais. Je vais me faire des petits jeux VR en plein mois d'août.
C'est la rentrée, ça fait chier. J'ai envie de m'échapper un petit peu. Boum, VR. Là, ça marche mieux. Mais non, en plein été, quoi.
Bon. Ouais, voilà.
Pourquoi pas.
Tout le monde a la clim, je sais pas.
Non, ça doit être ça. Ouais. C'est le monde moderne. Hein.
À San Francisco, ils ont tous la clim.
Oui, c'est ça.
Donc, bon jeu à suivre. L'autre grosse nouveauté, alors je sais que ça fait un peu bébé comme jeu, c'est Puzzle Bubble 3D.
Mais t'es fou, toi, bébé. C'est toi le bébé. C'est trop bien, Puzzle Bubble.
Non, pas du tout, parce que moi j'adore ce style en fait. mais c'est vrai que en général maintenant on est blindé avec tous les commentaires qu'on se prend dans la figure. Dès que tu sors ce genre de jeu, tu balances une image, c'est quoi encore cette merde, ça s'arrête pas. Enfin, tant que t'as pas du FPS, dès que tu envoies des petits dinosaures rigolos bleus et verts, ça y est, les mecs ça les intéresse pas. Alors que je pense que ce genre de jeu, c'est simplé, c'est des licences qui ont fait leur preuve, qui sont méga connues et qui peuvent être très sympas en VR. Donc Puzzle Bubble 3D Vacation Odyssey qui est une adaptation donc de la borne d'arcade de 1994 qui était sortie donc en même temps que la PlayStation 1. En Europe, le jeu s'appelait Bust a Move, puis Puzzle Bubble après a vite pris le dessus pour prendre le nom. C'était une borne qui était de Taito. Donc c'est un jeu qui est connu par tous les anciens, tout le monde connaît. Et ils ont décidé de reprendre ce grand classique pour en faire un jeu VR. C'est bien à la mode, il y en a un paquet qui le font. Je pense à Ivanovic Game qui sont spécialisés dans ce genre de truc. Le développeur, c'est Survios. Survios, on les connaît, c'est Rodata, Creed, Battlewake, Electronauts, Sprint Vector, The Walking Dead Onslaught, qui n'est pas franchement le meilleur de leur jeu.
C'est pas le meilleur.
Puzzle Bubble 3D, bon, ça peut être sympa, c'est tout mignon, c'est un gameplay sympa, c'est le style de jeu qui peut être sympa aussi quand on n'a pas trop le temps, quand on se dit tiens, je veux jouer une heure, pas plus, ça peut très bien passer le temps.
Mais c'est un truc à la Tetris Effect en fait, hein,
c'est
parce
ça,
que c'est carrément
ça.
Un vieux gameplay d'un vieux jeu d'arcade qui est transposé en VR. C'est génial ça, enfin je veux dire, moi les Puzzle Bubble, moi j'avais découvert ça sur la NES à l'époque, parce qu'au départ c'était une petite licence sur NES où on avait les deux petits dinosaures là, et puis on devait faire avec des bulles récupérer des ennemis, enfin encercler des ennemis. Ça c'était vraiment le tout premier. Mais après le Bust Move en arcade et sur PlayStation, mais j'ai passé des heures et des heures. C'est le genre de petit jeu à la con, ultra addictif. C'est un petit peu l'ancêtre de Candy Crush en fait.
Ah, hein, c'est exactement ce ça.
C'est réaction en chaîne,
un petit canon, on jette des bubules. Des bubules de couleurs, dès qu'il y en a trois d'alignées de la même couleur, elles explosent et ça libère de l'espace qui se fait occuper par les autres bubules. Il y a deux petits dinos, ils ont un nom, ces deux petits dinos, je ne me rappelle plus de leur nom. Il y en a un vert et un bleu. Mais bon, voilà. C'est à la base de jeux qui sont très très connus aujourd'hui. Quoi. C'est un classique, c'est de là que vient beaucoup de jeux qu'on connaît aujourd'hui.
Qui historiquement, en tout cas Nintendo, c'est vrai que c'est bizarre de les voir aussi débarquer maintenant en VR. Mais donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Moi voilà. Je l'attends en tout cas.
Sûr, ouais, moi aussi, ça peut être sympa. Et donc à partir de là, on a fait les nouveautés de la semaine dernière. Donc après, ça va aller plus vite. Il y avait Winds and Leaves qu'on avait déjà vu sur une autre émission il y a un petit moment. Vous en avez déjà parlé d'ailleurs dans le podcast. Donc là, c'est plus Winds and Leaves, c'est plus un truc de jardinage. Enfin, de jardinage, on va pas dire ça. C'est du terraformage, on va dire.
Ouais.
On arrive dans des zones complètement désertes, arides. Et il va falloir arriver à trouver les bonnes espèces. C'est une espèce de SimCity, sauf qu'à la place que ce soit une ville, c'est la végétation. Donc il va falloir choisir la bonne espèce d'arbre qui va pousser avec son environnement, qui va générer certains fruits qui vont servir à faire planter d'autres plantes à côté. Mais attention, les plantes entre elles ne sont pas forcément, il ne faut pas forcément les mettre à côté parce qu'une peut détruire l'autre. Donc il faut arriver à construire comme ça un biome, un écosystème sain qui fonctionne. Et puis en plus, il y a la météo derrière, donc ça, ça va peut-être pouvoir faire penser à des trucs à la Pepper Beast au niveau de la météo, en fonction des pluies, parce qu'il y a des tempêtes, ouais. Il y a des tempêtes qui vont pouvoir, des tornades qui vont pouvoir tout arracher. Il y a, et donc certains arbres qui ont de plus grosses racines qui seront plus solides quand il y a des tornades. Donc en gros, ça peut être...
Ça, au niveau de la mécanique des fluides, j'ai bien peur que ce soit beaucoup moins pointu que Pepper Beast.
Oui.
Vraiment beaucoup moins. Et c'est vraiment dommage parce que justement, c'est le genre de concept où tu fais planter des choses. En fait, le rythme, le gameplay est très lent et très. Tu explores, tu regardes beaucoup ce qui se passe autour de toi. Je pense que justement, s'ils avaient pu utiliser le moteur de Pepper Beast, donc pour proposer un gameplay au mode bac à sable de Pepper Beast, ça aurait pu être vraiment sympa.
Ah, oui, oui.
Là, malheureusement, j'ai l'impression que quand on va l'essayer, quand tu as essayé Pepper Beast et après tu essayes un jeu comme ça, tu vas dire ouais, manque un truc, quoi, c'est dommage.
Pour l'instant, ouais. Je leur laisse une chance, mais bon.
Ouais, ouais, moi aussi. Mais bon,
la petite originalité du jeu, c'est qu'on se déplace en échasse, et en fait, c'est des échasses un peu électriques. Et on peut choisir à quelle hauteur on va vouloir être. Donc ce qui peut être pratique, c'est quand il y a des grands arbres, on va pouvoir monter à la cime pour cueillir les fruits qui sont tout en haut, quoi. Donc c'est avec ce système des chasses. Et autre particularité, c'est que, en fait, un petit peu comme dans SimCity, je parlais des bâtiments, et il y avait aussi les rampes de métro qu'on voyait sous terre. Et ben il y a aussi là un deuxième monde, en fait, où tous les arbres et les plantes sont liés entre eux. Et pour voir les liens qu'il y a entre eux, on peut les voir que la nuit. Donc il va falloir attendre que la nuit tombe, et là on va voir des faisceaux lumineux entre les plantes, et on va comprendre pourquoi cette plante ne veut pas pousser, parce que justement il y a des liens qui sont pas bons entre les plantes. Donc il va falloir travailler la nuit et le jour pour arriver à faire progresser tout ce petit truc et combattre le désert. Voilà.
Très très conceptuel, mais ça peut être sympa. En tout cas, ça peut donner des panoramas jolis. En tout cas, c'est ce qu'on devine
faut voir ce que ça donne. J'espère que ouais, ce sera très net, parce que graphiquement, c'est pas non plus foufou.
C'est très simple.
Voilà,
c'est très
donc simple. J'espère qu'ils vont booster les FPS, et puis surtout essayer d'utiliser un max la résolution du PSVR, qui est pas fou non plus, mais bon, vu les graphismes, je pense que c'est possible. Et puis c'est un jeu qui est canadien, qui est développé par le studio Trébuchet, et qui sortira le 27 juillet.
Voilà, il n'y aura plus qu'à tester ça.
Ensuite, on a eu des nouvelles de Wanderer. Donc en ce moment, Wanderer, eh ben, on en parle même trop, parce qu'une fois par semaine, il y a un article sur Wanderer. Donc bah là, on vous en a déjà bien parlé. Donc développé par les Néo-Zélandais Oddboy et M-Theory. Un jeu de voyage dans le temps, vous voyagez dans toutes les époques. Vous devez régler des problèmes, vous allez dérégler même des choses en passant dans le passé, puis après il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. Vous allez aller Deuxième Guerre mondiale, visiter la Lune, enfin il y a tout un tas d'époques. Donc là, ils nous ont présenté un nouveau trailer. Le seul truc que je dois dire là-dessus, c'est aller voir sur le site le nouveau trailer, parce que finalement, en ce moment, c'est un peu ce genre de nouvelles qu'on a.
C'est ouais, il y a que ça, en fait, à part des nouvelles images.
Voilà, et puis on n'a pas vraiment plus de choses à dire. Il y a juste il balance un nouveau trailer, et vu qu'on a déjà tout dit dans nos articles, soit on se répète pendant 30 minutes, et dans ce cas-là, allez écouter les autres podcasts où on parle vraiment de Wanderer. Ouais.
Donc là, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein, d'autres podcasts sur la VR, donc malheureusement.
Voilà, donc un jeu qu'on attend, qui est clairement, on l'attend vraiment. Et puis, un nouveau trailer. Allez-y, allez sur le site. Alors, il est en ligne.
Faites votre avis. Et puis voilà, nous on vous dira ce qu'on en pense quand il sortira. Mais c'est vrai que pour le moment, pas répéter les mêmes choses, c'est vrai que c'est pas très.
Voilà, ça sert à rien. Dans la même lignée, alors Wanderer, c'est quand même un jeu qu'on attend énormément. Il y en a un autre, c'est After the Fall. After the Fall, on en parle depuis un bon paquet de temps. Parce que ça fait un moment qu'il est annoncé. Alors eux aussi, c'est pareil, c'est trailer sur trailer. Qu'est-ce qu'ils ont présenté ? Ben, ils ont présenté, on va dire, le bestiaire, mais c'était en fait trois monstres du jeu. Dans le lot, on avait les Juggernaut. Donc c'est celui qui a un casque de policier de chips sur la tête, qui ressemble à un espèce de zombie un peu bodybuildé avec un casque. Ils nous ont présenté alors les plus moches, qui sont déjà plus proches de l'esprit The Last of Us, c'est les Eaters. donc qui sont des snowbreeds assez gros et capables d'anéantir tout ce qui se trouve sur son chemin, hein, forcément. Et alors là, sa particularité, c'est un peu comme les puants dans The Last of Us, dès qu'on les touche, ils explosent. Et puis, voilà. Et puis le monstre, le géant, c'est le Smasher, donc c'est un tyran de 5 ou 6 mètres, qui apparemment, quand tu te retrouves, même parce que on vous rappelle quand même qu'After the Fall sera un jeu qui se jouera en coop à 4. Et en général, apparemment, ce que j'ai compris, c'est quand tu tombes sur un smasher, en général, tu te barres.
Oui, c'est un peu comme le tank dans Left 4 Dead, quoi. Voilà. En gros, si t'es tout seul, t'es mort.
C'est ça. Il faut être à 4 et il faut être très organisé pour lui faire la peau. On n'en a pas su plus que ça sur ce trailer. Donc là aussi, on a un article qui est en ligne sur le site qui montre la dernière vidéo, la dernière présentation de After the Fall avec tous ces personnages. On vous invite à aller voir l'article directement sur le site.
Et la nouvelle vidéo, et c'est vrai que même si je trouve que le bestiaire est pas ultra original, enfin en gros voilà, t'as le zomblard flic de base, t'as l'espèce de grosse crotte de nez genre boomer de Left 4 Dead, et puis t'as le tank de Left 4 Dead aussi.
Ouais.
Ils ont quand même un chara-design quand même qui est assez intéressant, en tout cas sur les images de présentation du studio. Après, quand tu vois en jeu dans la vidéo, je trouve qu'ils sont quand même très très monochromes. Le jeu déjà a l'air vraiment très monochrome.
Ouais.
Et je trouve que c'est vraiment du copier-coller les ennemis. C'est un truc qui me gêne un petit peu. Alors, je sais pas si en jeu, vu qu'il y aura certainement, on va dire, que l'exaltation de l'action, et puis tu seras tellement dedans que de toute façon, tu n'auras pas vraiment le temps de regarder si un zombie ressemble à l'autre. Quand tu regardes les vidéos, je trouve ça un petit peu quand même.
C'est une petite crainte. Ça. On était, ouais. Tu vois, on était super.
Un peu faiblard, ce côté.
On était super hypé par Oblivion quand ils l'ont annoncé là. Oblivion Where's the Oblivion. Et là, celui-là, on l'attend. Les trailers, on voit du lourd en plus. Je suppose que sur un gros PC, ça va être plutôt joli, plutôt sympa. Et j'espère que sur le bestiaire, il y aura quand même. J'espère qu'ils nous en ont montré 3, mais que derrière, ils en ont encore 10. Quoi.
Bah, vu qu'en gros, en plus, voilà, le jeu veut être une sorte de Left 4 Dead en VR coop. Je veux dire, quand tu jouais à Left 4 Dead, t'avais quand même des ennemis en fait qui ils se ressemblaient pas. Après, c'était beaucoup de copier-coller parce que il y avait énormément de zomblards dedans. Mais quand même, t'avais une petite diversité. Là, j'ai l'impression, ouais, c'est pas très diversifié, quoi. Ça me fait un peu peur. Après, on verra sur pièce ce que ça donne. Mais
ouais, parce c'était les développeurs de Wanderer qui, moi, ma grosse crainte, c'est quand je les avais eus, je leur avais dit, mais vous rendez compte que vous avez montré la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il y avait, ils ont montré, je sais pas combien d'époques, au moins 6 époques différentes.
Ils ont tout montré. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il y aura comme surprise?
C'était ma question. Je leur avais dit, vous avez montré 6 trucs, il va y avoir d'autres époques surprises. Et là, ils avaient rigolé, ils avaient dit oui, vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Donc ça aussi, on va voir.
Une septième, quoi.
Alors ça peut être une stratégie. Ils disent tiens, on en balance 3, on en a 10.
J'espère. Après, la stratégie aussi, quand on voit même les gros studios comme Naughty Dog, comme par exemple pour Uncharted 3, je crois, qui avait montré l'intégralité du jeu en trailer avant que le jeu sorte.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait tellement de trailers, tellement de trucs, ils ont tout montré. Les scènes clés, tous les environnements, etc. Les grosses scènes d'action. J'espère que les petits studios comme ça, VR,
ne font pas la connerie.
Font pas la même connerie, quoi. Parce que si tu vois que les gros sont capables de le faire,
malheureusement,
peur qu'ils fassent aussi la même chose. Ça, on n'en saura pas avant d'avoir terminé le jeu, quoi. Bon, on verra.
Mais celui-là, alors lui, avec Wanderer, c'est clair qu'il me hype à mort, à bloc. Alors, il y en a un qui m'avait pas tapé du tout dans l'œil la dernière fois quand il avait été annoncé, c'était Freckhead. Fracked, voilà, de End Dreams, qui est une exclusivité sur PlayStation VR. Et puis, y a eu le premier teaser. Tu dis, ouais, sympa. C'est un peu du déjà vu. C'est un peu du Blood and Truth avec du cel shading, une couche de cel shading par-dessus. Tout ça se passant en Alaska, à la montagne, avec du ski, de l'escalade. Mais c'est bien, à mon avis, c'est dans l'esprit de Blood and Truth, dans la composition du truc. Et puis, j'avais pas plus percuté ça. Et puis là, je commence vraiment j'ai re-regardé le premier trailer, donc le premier teaser, après le premier trailer. Il faut savoir qu'il y a un second trailer qui vient de sortir aujourd'hui, donc on est le 14 juin. Donc là aussi, si vous voulez le voir, on vous l'a mis sur le site, sur l'article de Frecht. Vous allez dessus, vous avez les deux trailers dessus. Et finalement, je trouve que c'est même plutôt joli, que ça a l'air plutôt sympa. Pour tous ceux qui ont beaucoup aimé Blood and Truth, je pense que ça peut faire un bon jeu aussi.
En tout cas, le dernier niveau de Blood and Truth, sans spoiler, hein, mais c'est uniquement de la course en avant où tu tires et tu t'arrêtes jamais, quoi. T'as pas de phase d'attente ou d'exposition, c'est course en avant, quoi.
C'est ça. Et non, parce que tu as des descentes à ski, hein, donc pour ça, ça va être très comparable à Blood and Truth quand on était en avant, mais tu as aussi des déplacements libres.
Ah d'accord, ok.
C'est peut-être en faisant les articles et puis en commençant à gratter dedans que je me suis aperçu qu'il n'était pas si... c'est pas une expérience qui est complètement téléguidé en fait. Il y a des parties où c'est que tu pourrais y aller en marchant, tu vas pouvoir escalader, tu vas pouvoir prendre des tyroliennes, tu vas pouvoir dévaler des montagnes à ski. Le but du jeu d'ailleurs étant que tu es tranquillement en haut de ton chalet à la montagne en Alaska et il y a je sais pas quel organisme qui veut te faire la peau. Je crois qu'en plus c'est des zombies ou des machins un peu bizarres.
Oh, bah tiens.
Enfin, c'est pas des zombies mais c'est des extraterrestres ou j'en sais rien. Et en gros
ou des nazis.
En gros le but du jeu c'est d'arriver en bas de la montagne sans te faire buter et c'est plus un escape par la force, quoi. Voilà.
Action quoi.
Voilà.
Il y avait des phases comme ça, il y avait pas mal de phases comme ça dans Medal of Honor Above and Beyond et justement j'avais bien aimé ces passages là. En fait t'es vraiment dans l'action, t'es à fond.
C'est ça, c'est
t'as pas à te faire chier avec les déplacements, tu fais juste attention à ce qui te tombe dessus et c'est efficace, quoi.
C'est que de l'action fluide avec des mécanismes de tir à couvert. On va pouvoir aussi choper des objets, attraper des objets, donc il y a toute une phase de déplacement libre qui sera aussi là. Moi tout ce que j'ai vu, ça me fait vraiment penser aux mécaniques de Blood and Truth. C'est pour ça que je parle beaucoup de Blood and Truth à chaque fois que je pense à ce jeu. Puis par-dessus ça, t'as quand même un look particulier. Je trouve que les éclairages sont vraiment très très bien calculés.
Ouais, c'est très coloré, très joli.
Quand il y a un fond bleu pâle, il rajoute un contraste de complémentaire avec un orange vif par-dessus pour que ça pète bien. Alors qu'il y a certains jeux, on reste tout dans le bleu ou on reste tout, c'est tout plutôt fade. Là, c'est plutôt joli. Et puis le cel shading qu'on connaît bien parce que c'est Borderlands qui utilise beaucoup ça. Donc c'est un petit mélange, on va dire, entre un Borderlands et un Blood and Truth. Et je pense que ça peut faire son petit, ça peut faire, en fin de vie du PSVR, je pense que c'est un jeu qui peut faire un carton. Mmh. Surtout que c'est une exclusivité, peut-être momentanée, mais voilà. Donc celui-là.
En tout cas, techniquement, ça peut tourner sur un Quest 2. Hein.
Ouais. Ouais, je pense. Ouais.
Si, ouais, si, quand même.
Ouais, pas si sûr.
Mais c'est pas une critique, hein. C'est juste que voilà, c'est un bon petit jeu qui a l'air bien coloré. Bah,
quand on parle de Quest 2, on parle toujours standalone. Hein. Bon, on parle pas de PC. Hein. Ouais.
Ah, standalone, oui.
Sinon, on parle PC. Ouais. Ouais.
Le Quest 2.
Je suis pas sûr. Oui. Mais ouais, si, c'est possible. Pourquoi pas.
On le saura peut-être plus tard.
Bien sûr que ça tourne de toute façon parce qu'il suffit d'alléger quelques trucs et puis ça passe. Hein, mais je sais pas si on gardera. Ouais. Je sais pas si on gardera
quelques arbres.
Par contre. Mais bon, bonne nouvelle, bon truc. Ensuite, encore un Sniper Elite. Alors lui.
Ah oui.
Alors lui, on a commencé à en parler. C'était à l'E3 2019.
Je crois que c'était en 1986, voilà. Tellement c'est il y a longtemps en fait.
Donc là sur le site, dans l'archivage, si vous tapez Sniper Elite, vous allez voir que des articles sur Sniper Elite, il y en a une petite chier.
Vous allez faire de la préhistoire, voilà. De la spéléo de.
Et puis sur la fin, on avait dit il sortira jamais celui-là, c'est pas possible. Et puis hop, il redonne un petit signe de vie, et puis c'est fini. Et puis alors là, ça y est, c'est bon. Là maintenant, faut se dépêcher parce qu'il arrive.
Ouais, il a l'air de bien poutrer quand même. Hein.
Alors lui, il arrive en juillet également. Donc c'est pour ça que tous les jeux qu'on annonce, en fait, ils sont pour cet été. Hein. Celui-là, encore une fois, c'est encore un bon jeu. Parce que là, mine de rien, ça en fait déjà 4 qu'on a alignés de suite, qui sont quand même des gros jeux attendus. Il a été donc annoncé à l'E3 2019. Il a été, à cette époque-là, annoncé sur PlayStation VR. Il est développé par le studio Rebellion. Et vous allez incarner un sniper italien qui décide de se soulever contre les forces fascistes durant la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a une petite particularité, ce jeu, c'est que quand vous tuez un ennemi, vous avez la possibilité d'avoir un espèce de ralenti qui va vous mettre à la place de la balle et vous montrer où la balle va traverser vos ennemis, ce qui en VR peut rendre quand même pas mal.
Ça va être dégueulasse.
Et dans ces cas-là, ça crée toujours une image en fait, où vous allez voir votre ennemi comme si vous le voyiez à travers une radio. Donc vous allez voir tout son squelette, vous allez voir l'intérieur de votre ennemi, en fait, son squelette, ses trachées, ses muscles, tout ça. Et vous allez voir exactement où la balle le percute et quel organe il va transpercer. Donc ça, c'est le petit côté marrant, un peu vicelard du truc. Ils appellent ça le viscéral X-ray. Ça peut être ça.
Ouais, ça fait vraiment penser à Mortal Kombat un petit peu. C'est bien sympa.
Et donc alors lui aussi, ça a l'air d'être. Il est relativement beau, mis à part sur le trailer, les mains de vieux du début, que là j'étais fait un bond, j'ai dit c'est pas possible, comment ils ont laissé passer ça.
Ouais,
c'est minable.
C'est pas grave. C'est la texture moche. On est d'accord, on a l'impression qu'il y a des gants. En fait, il a des gants de vieux.
Ah bah,
il a des gants de maridé.
Je sais pas comment ils ont pu faire un truc aussi pourri. Mais bon. surtout quand tu vois le reste du jeu qui est très beau, je comprends pas qu'ils aient laissé passer ces mains-là. Mais bon, bref.
Non, puis ça sera une cinématique. Hein, donc,
bon, donc là, sur le premier trailer, vous allez voir les mains de vieux. C'est pas des mains de vieux, c'est, je sais pas, un bonhomme en plastique, mal fait, en cire, je sais pas. Enfin, bon, bref. Donc globalement, le studio, il avait un seul objectif pour Sniper Elite. Donc là, c'est encore les paroles du studio. On jugera quand ça sortira. Mais son objectif pour ce jeu, c'était de créer un jeu AAA exploitant les qualités uniques de la réalité virtuelle. Donc pour lui, pour le studio, c'est quand même un titre qui leur a bouffé pas mal de temps. L'ambition est là. Graphiquement, globalement, c'est joli à part les mains de vieux.
Il va se prendre 2 points en moins pour ça.
J'ai fait un bond quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas possible d'avoir un jeu si joli et laisser passer une merde pareille, c'est pas possible.
Dans les négatifs, les mains de vieux.
Il arrive le 8 juillet, donc il n'y en a plus pour longtemps pour attendre. Et puis c'est du sniper, ça peut plaire un peu à tout le monde, c'est moins bourrin que du FPS où il faut tirer sur tout le monde.
Alors c'est du sniper, parce que quand tu vois bien dans le trailer justement, moi ça m'a encore fait beaucoup penser à Medal of Honor décidément. C'est que vraiment tu as des déplacements libres, t'as plusieurs types d'armes un peu plus mitrailleuses, flingues, etc. que tu peux utiliser. J'imagine que si c'est comme les jeux, on va dire en 2D, sur plat de Sniper Elite, t'as toute une phase de furtivité dans tes missions où tu vas devoir un petit peu appréhender le terrain et ensuite trouver des bonnes planques pour pouvoir atteindre ta cible finale et puis la sniper.
Et puis surtout
et
un jeu compatible génial, M-Controller, compatible PS Move. On pourra aussi avoir 2 flingues si on a les PS Move. Et puis il y a toutes les phases de recharge avec les cuirasses qui se barrent et tout ça, qui vont être aussi sympas dans le gameplay.
Mais tu vois, justement, Sniper Elite, c'est pas qu'un jeu de sniper. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est pas uniquement t'es posté sur ton nid d'aigle et puis tu vas faire du ball trap. Non, non, c'est bien plus riche que ça. Donc c'est cool qu'ils aient réussi à faire quelque chose de bien là-dessus.
Il faut redire aussi en dernier lieu, c'est que Sniper Elite VR, c'est pas fait par des branles. C'est quand même eux qui avaient fait l'excellentissime Battlezone VR, qui est sorti trop tôt, je pense, pour être.
Ouais.
Il a été un peu boudé ce jeu, et c'est pour ça que.
Line-up
de PSVR, de lancement. Si vous êtes en train de vous demander quel jeu faire et tout ça, Battlezone, il vaut vraiment le coup. C'est un très bon jeu sur PlayStation VR, donc n'hésitez pas.
Très simpliste graphiquement, mais sympa.
Et justement, déjà Battlezone c'est un super jeu, donc je pense que je serais pas étonné. À mon avis, Sniper Elite risque de bien cartonner aussi. Il va sortir PlayStation VR, Steam VR, Oculus Rift et Oculus Quest le 8 juillet 2021.
En espérant que toutes les versions ne soient pas bridées.
Bah, en espérant que toutes les versions ne soient pas les versions Oculus Quest. Voilà, Oculus Quest. Voilà.
C'est ça. Portable.
Hein. Oui, répète, oui.
Hein. Portable, autonome. Hein.
Ah bah, quand on dit Quest, quand on dit Quest 2, ça veut dire que c'est autonome, standalone, embarqué dans le Quest 2. Sinon, on dit PC. Voilà, c'est un jeu PC.
Voilà. Voilà. Bon, on a l'impression peut-être qu'on insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que systématiquement, on se prend des scuds. Ouais, mais t'oublies que tu peux brancher sur ton PC ou tu peux carrément le mettre en Wi-Fi. Ouais, mais on sait. Mais du coup, c'est du jeu CVR, voilà. En fait. C'est pas
un jeu PC, c'est un jeu PC. Il est prévu pour une machine qui est plus puissante qu'une console de jeu. Il est prévu pour un PC. Donc, avec le Quest, on peut jouer à un jeu PC. Et c'est ce que je dis toujours, avec une PS Vita, on pouvait jouer à des jeux PS4 Pro. On pouvait jouer à The Last of Us 2. Ben là, voilà. C'est pour ça que quand on parle de Quest, on parle que de la version PS Vita. Quand on parle de PC, on parle des machines, consoles. Voilà. On sépare bien les deux. Donc, on en est à 4 bons jeux. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Une mise à jour, ah, ça c'est intéressant aussi. Une mise à jour de Swordsman VR. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé de ce jeu. Je crois qu'on doit avoir 40 articles sur Scene Studio et Swordsman.
Majo en parle à peu près à chaque podcast, sauf quand il n'est pas là.
Alors intéressant, un patch qui est sorti, hein, qui est déjà... Alors ce jeu, alors Scene Studio quand même, moi, il m'épate, parce qu'ils avaient quand même sorti une belle bouse, et là, ils se sont vraiment donné du mal, et ils méritent franchement qu'on s'intéresse à eux.
Alors, la rédemption.
Ouais, bah ils travaillent beaucoup, quoi. C'est un truc de fou. Ils sortent patch sur patch et le jeu est de mieux en mieux. Ouais. Donc Swordsman, bah, on vous le présente plus, hein, le jeu médiéval de tranchage de tête et de
bras.
combat à l'épée, avec quand même tout un système physique qui est relativement bien foutu. Il y a eu plusieurs mises à jour, on en a déjà parlé. Et dernière mise à jour, c'est un nouveau modificateur qui vous permet de manier deux épées en même temps avec les deux mains, donc une épée dans chaque main, et surtout les améliorations sur PS5, l'option MSAA pour PS4 et PS5. Donc ça, MSAA, c'est un anti-aliasing qui à mon avis ne devait pas exister en 2016, parce qu'en ce moment c'est le mot à la mode.
MSAA, je pense que si, parce que ça fait un moment sur PC que je vois cette option là, hein, il me semble.
Alors certainement que ça devait exister, ou je sais pas, mais alors
mais c'était trop gourmand, beaucoup trop gourmand.
Voilà, je te dis pas, alors je comprends pas pourquoi ils le mettent sur PS4, mais en tout cas, ce mot là, j'ai dû le croiser en un mois, j'ai dû le croiser au moins sur 5 jeux, ils en ont parlé.
Ouais, mais tu sais, c'est le genre de terme un petit peu.
Il y en a un qui le dit, il y a tout le monde qui le balance.
Bah, c'est un peu ça, ouais.
C'est ça. Donc, c'est intéressant parce que donc j'ai mis une petite vidéo qui montre la différence entre le rendu PS5 et le rendu PS4 Pro. Du jeu, en activant c'est l'anti-aliasing. Il faut savoir qu'il y a aussi un super sampling par-dessus, donc du coup ben, c'est beaucoup plus net. Alors, au niveau de la densité des pixels sur la PS5, donc, elle est portée à 100%, ce qui veut dire qu'on est au maximum de ce que le PSVR peut supporter en qualité d'image.
C'est du 1 pour 1 quoi.
C'est du 1 pour 1. C'est ça, on ne peut pas en rajouter quoi. À titre de comparaison, la PS4 Pro, elle tournait à 85% de densité de pixels. Donc c'est intéressant et on voit vite l'avantage de la chose. Donc dans la petite vidéo où il passe de la PS5 à la PS4 Pro, et forcément on voit bien sur un tout petit texte que c'est bien plus lisible sur PS5, et même notamment à un moment sur un gros plan d'un œil d'un des combattants où on voit vraiment de détails dans l'œil qu'on ne voit pas du tout sur la PS4 Pro.
Alors ça peut paraître, c'est vrai, un petit peu de l'ordre du détail, ce genre de choses là que tu vois pas forcément en jeu, en mouvement, mais en fait c'est du confort, un confort supplémentaire quand tu joues et qui est vraiment perceptible sur PS5 quoi. Donc c'est toujours bon à prendre, surtout que c'est un patch gratos quoi, et c'est du boulot des développeurs qui porte ses fruits quoi.
Et puis surtout c'est vrai que c'est pas avec une vidéo YouTube qu'on arrive à rendre la réalité virtuelle. Non. Donc une image PS5, si on vous donne sur une image globale en 1080p, on le verra pas sur une vidéo YouTube, la différence entre une PS5 et une PS4 Pro, alors qu'on la verra dans le casque. C'est pour ça qu'il vaut mieux zoomer sur une partie, parce que dans le casque vous allez bien avoir des bonnes loupes et vous allez bien voir de gros en gros les détails, et globalement c'est beaucoup plus beau. Donc alors ça sera jamais la qualité de ce que pourra sortir la PS5 en natif, mais c'est déjà beaucoup mieux que la PS4 Pro. Voilà. C'est pas tous les jeux qui le proposent.
Ça fait plaisir.
Voilà.
Et puis, quand t'es fan du jeu, et il y en a quand même pas mal, il y a une bonne communauté sur Swordsman, ben, c'est pour les chanceux qui ont une PS5 comme Majo, ben, c'est bien d'avoir toujours des petits patchs qui prouve que t'as pas fait une connerie en achetant une console où il y a quasiment pas de jeu dessus, quoi.
Ouais, et puis le jeu est pas super cher. Franchement, il se bonifie avec le temps. Il y avait les pirates, il y a la bataille contre le Kraken. S'il y en a qui se posent des questions, là, il faut plus hésiter parce qu'il commence à vraiment devenir sérieusement. Enfin, en tout cas, en combat à l'épée, il n'y a pas mieux sur le PlayStation VR. Hein.
C'est vrai que t'as des jeux, ça aussi on en parle de temps en temps dans l'émission, mais c'est vrai que t'as des jeux qui sortent par exemple à 15 balles avec un contenu qui est juste ce qu'il faut, quoi. Et en fait, au fur et à mesure des patchs et des mises à jour, proposent du contenu à chaque fois renouvelé, mmh, avec des nouveaux trucs qui sont proposés gratuitement. Et c'est vraiment bien, et faut vraiment mettre ce genre de choses, ces idées des développeurs en avant, quoi. Et ces propositions-là, quand ils proposent justement à leur communauté d'avoir du contenu supplémentaire gratuitement, c'est suffisamment rare, faut vraiment appuyer dessus, quoi. Donc c'est bien, donc Swordsman, bravo, c'est vraiment une bonne pioche maintenant.
J'en profite aussi pour parler d'une petite vidéo de ETR qui s'est amusé à passer le PSVR au laboratoire. Donc ETR, donc pour ceux qui ne connaissent pas ETR, ils sont plus spécialisés PC, ceux qui ont juste le PSVR et qui n'ont pas l'habitude de se balader trop sur Internet. Et ça fait donc des années, parce que je crois qu'ils ont démarré en 2014 ou en 2015, ETR, spécialisés à la base sur tout ce qui était Oculus, puis petit à petit ils ont bifurqué dans le monde PC. Maintenant ils gèrent un petit peu tous les casques. Ils sont amusés par curiosité, parce qu'en fait c'est parti d'un truc qu'ils en avaient ras-le-bol, que les développeurs arrêtaient pas de leur dire que le PSVR c'était pas si pourri que ça. Donc du coup, ils se sont dit on va le passer au banc de test quand même pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et c'est vrai que vu qu'ils sont plus proches du PC, ils sont peut-être passés à côté du PSVR. C'est un petit peu ce qu'ils sous-entendent dans leur vidéo. Je vous propose d'aller la voir, elle est aussi sur le site, sur l'article de Swordsman. Je l'ai mis à la fin de l'article de Swordsman. N'hésitez pas à la regarder, parce qu'on en apprend pas mal, et c'est ce qui est rigolo, c'est que finalement ce PSVR, ça a beau être la risée de tout le monde aujourd'hui qui essaye de l'enterrer et de le faire passer pour le dernier des pires casques de la planète, et ben, même maintenant dans certains domaines il met encore la pile à des casques d'aujourd'hui, quoi, dont le Quest 2 sur certains domaines.
Bah merde, il est peut-être pas si mal. Bah peut-être qu'on dit pas tant de conneries que ça, en fait, finalement.
Là où j'apprécie beaucoup ce qui est dit dans cette vidéo de TR, c'est qu'ils ne cherchent pas à lui faire un cadeau. Hein. Ils ne sont pas payés par Sony pour balancer un truc. Donc, ils disent clairement les failles. Les failles, c'est quoi? Bah, on le sait, hein, c'est la définition de la dalle qui est en 1080p. Donc, bon, c'est trop léger aujourd'hui. Et la deuxième faille, c'est les PS Move. Par contre, pour tout le reste, pour la qualité de la dalle OLED, il n'y a pas d'équivalent. Les contrastes, il n'y a pas d'équivalent non plus. Pour tout le reste, en fait, il est dans le haut du panier et il vient même foutre la pâtée au reverb, quoi.
De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Suffit de foutre un PSVR avec un bon jeu dessus et puis après mettre le même jeu sur PC. Moi, je sais que j'ai fait une petite partie avec Majo de Squadrons, qui est Star Wars Squadrons, qui était gratos sur le PS Plus là. Et je l'avais jamais essayé en fait sur PS4 Pro. Je l'avais fait que sur PC, et donc sur PC je le mets en ultra, hein, je le mets vraiment à fond,
tu mets
partout
tout à fond.
Voilà, il n'y a pas de meilleure version que ça. Et bah franchement, quand je l'ai essayé sur PS4 Pro, je me suis dit qu'il avait vraiment pas à rougir par rapport à la version de PC, hein, et ça m'a mis un petit peu sur le cul. C'est à dire que la qualité de la dalle du PSVR est tellement bonne que même si la résolution est moins bonne, en fait les noirs sont beaucoup plus profonds, les couleurs sont plus vivantes. Ça a vraiment pas à rougir. Même les éléments de loin, les vaisseaux dans les dogfights qui sont vachement loin, tu les distingues bien, en fait. Tu vois où est-ce qu'ils vont, tu vois leur direction, tu sais où est le nez, où est l'arrière. Les éléments du décor, ils sont pas flous, ils sont vraiment bien représentés. Donc non, j'étais vraiment sur le cul, en fait, de voir qu'en fait la version PS4 Pro était vraiment très très propre sur Squadron.
C'est ce qui en ressort, quoi. On s'aperçoit que là c'est marrant, parce que cette vidéo là me fait dire que si Sony, alors j'espère qu'ils font pas la même bêtise qu'avec la PS Vita, de passer l'excellent écran OLED de la première Vita en LED, tout simplement, parce que moi j'ai eu les deux et j'étais très déçu en les mettant à côté.
Pas que t'avais des traces, tu voyais carrément des traces sur les dernières versions de Vita, sur certaines couleurs, en tout cas sur certains noirs,
tu voyais
des aptaps blanc-gris et les noirs, en fait, c'est très bizarre.
Bah
c'est
des, mais quand tu mettais les deux PS Vita côte à côte et que tu faisais tourner le truc, c'était le jour et la nuit, quoi. Et c'est pour ça que si Sony, moi je croise les doigts là-dessus, peut-être encore plus, tu vois, que le fait qu'il y ait un fil ou qu'il n'y ait pas de fil, je rêverais qu'il y ait un 4K OLED RGB sur le prochain PSVR 2, j'en rêve de ça. Qui nous garde cette dalle, mais qui nous fout du 4K là-dedans, alors là, ça va tout déchirer. Rien que au niveau du fauve horizontal, par exemple, le PSVR, il est entre le Vive Pro 2 et le Reverb G2.
Donc le top, quoi.
Au niveau du fauve vertical, il est le Valve Index, c'est celui qui gagne, il est deuxième sur le podium. Ensuite, il y a un truc de dingue. Donc, c'était les noirs. Hein. Les noirs, il est premier. Il grille le Quest 2, il grille le Cosmos, l'Index, le Vive Pro 2.
Sans aucun problème.
Donc, c'est important, cette dalle. Et on en parle, nous, depuis des années, hein, parce qu'on vous parle toujours des dalles Pentil. On a essayé de l'expliquer. On s'est fait insulter en disant vous êtes un site PlayStation VR. C'est pour ça que vous cassez le Pentil et tout ça. Mais non, tu comptes le nombre de sous-pixels et tu vois bien que l'effet de grille, quand il est sorti, il était quand même comparé au HTC Vive et à l'Oculus Rift premier du nom. Et il était déjà mieux que cela, quoi. Donc voilà, c'est juste un casque qui a 4 ans, c'est un vieux papy, d'accord. Mais on n'a pas à avoir honte de ce casque-là. Le prochain va tout déchirer, quoi.
Bah c'est clair et net. Mais moi, le seul truc qui m'emmerde maintenant sur le PSVR, et vraiment je peux plus, moi, c'est vraiment le tracking. Le tracking du casque sur la caméra externe avec
on est carrément d'accord.
C'est plus possible. Les
PS Move, c'est franc des merdes. Hein. On va le dire clairement.
Ils se démerdent pas trop
ça.
Mal sur certains jeux. Ça dépend des jeux. En plus, sur certains jeux, ils se débrouillent encore pas trop mal. Mais globalement, quand tu passes. En fait, le problème, c'est quand tu passes sur un truc de précision. Enfin, et encore, qui est pas le plus précis. Moi, j'ai le Rift S. C'est pas le tracking le plus précis. Hein. C'est-à-dire que c'est. Auto-traqué avec les caméras sur le casque et puis t'as tes contrôleurs qui sont devant toi, et si tu sors en fait du champ de tes caméras, et ben c'est bon, le tracking il part en sucette. Mais le tracking reste quand même assez précis quand tu passes de ça au PS Move et au tracking du PSVR. Bordel, oh, tu vois vraiment la différence, hein. Tu vois que c'est pas
il y a du jeu, hein.
Il
y a une différence entre nous deux, c'est que toi qui joues beaucoup sur PC, je pense que tu as pris des petites habitudes sur PC, alors que sur PSVR depuis 2016, moi qui n'ai que un PSVR, je fais attention à ça, en fait. Le truc tout con, c'est que quand c'est un jeu où je vais être plutôt assis, je vais bouger ma caméra, je vais la mettre en bas de l'écran, je vais faire attention de m'asseoir bien calée en face.
Je fais ça maintenant.
Quand je suis debout, je mets ma caméra au-dessus de la télé, bien en haut. Je fais attention toujours de mettre mes pieds au sol pour éviter de pivoter. Et un joueur PC, il aura toujours tendance à pivoter parce qu'il n'a pas l'habitude de ça.
Et parce qu'il y a le room scale.
Et en fait, je me suis créé des contraintes parce que je suis habitué au PSVR. Et c'est vrai que quelqu'un qui après passe à un Quest 2 et qui revient sur un PSVR, il va halluciner. Mais c'est normal. C'est normal.
Après, tu peux faire abstraction. Hein. Par exemple, moi, quand je reviens sur Hitman 3 de temps en temps sur le PSVR, et puis même je joue quand même pas mal encore au PSVR. Ce tracking, tu t'y fais, voilà, suffit de positionner comme il faut ta caméra, d'être bien calé, d'être bien installé. Moi, je joue pas mal aussi sur le fauteuil, donc ça me gêne pas du tout. Mais ça fonctionne. C'est juste que sur certains jeux, c'est franchement choquant, quoi, la différence. Quand tu joues à des jeux de tir et que tu vois, ça dépend plus de la luminosité un petit peu de ton salon, enfin de là où tu joues. T'as des fois des petits décalages en fait de tes moves ou même de ta manette en fait qui a tendance à se désaxer, ou même ta caméra qui a tendance à se désaxer par rapport à l'environnement dans lequel t'es en VR. Ça arrive jamais ça sur PC. Toi par exemple, moi j'ai un gros problème sur Dirt que j'adore en plus, hein, sur PSVR. Pour moi c'est le meilleur jeu de bagnole en VR qui existe. Quand j'y joue en VR, en fait, si j'y joue avec certains éclairages le soir, je sais que t'as tout l'environnement de la voiture qui se met à se décaler au fur et à mesure. Genre au début de la course, je suis en face
sur Dirt, tu me rappelles de ça.
Et à la fin, mon truc, il a tourné à 30 degrés, quoi.
Et c'est rigolo parce que c'est rigolo parce que sur Dirt, je m'en rappelle, ça me faisait exactement pareil, et pas du tout sur Drive Club.
Ça, je sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de l'éclairage. Et il y a d'autres jeux sur lesquels ça le fait. T'avais des jeux de vaisseau, t'avais F Valkyrie aussi qui le faisait un tout petit peu, mais beaucoup moins. Dirt, c'était vraiment abusé.
Et Dirt,
des fois, t'avais Wipeout aussi qui le faisait. C'est dommage, quoi, parce que bah, du coup, ça te nique complètement ton expérience, alors que le jeu est ultra bon, quoi. Je le répète, c'est vraiment pour moi le meilleur jeu de caisse en VR. Hein. Y a pas à chier. Donc voilà, c'est juste le tracking. Maintenant, tu sens vraiment c'est un tracking d'un autre âge et qu'il est temps de passer à autre chose, quoi.
On est d'accord, et puis n'importe quel joueur VR en a conscience, hein. Les PS Move, la définition de pas la qualité de la dalle, hein, la définition de la dalle qui est trop petite maintenant, et puis des gros problèmes de tracking optique avec ces petites LED, ces petites boules, tout ça va être effacé dans le prochain. En tout cas, c'était sympa de ce test d'ETR. Là, moi, je trouvais bien de remettre un peu les choses. Parce que si c'est nous qui le disons, de toute façon, on va se faire rentrer dedans. Ouais. Venant d'ETR, je trouvais ça plutôt sympa. C'est pour ça que j'ai voulu la partager. Et merci
à vous. C'est un post-mortem intéressant.
Voilà.
Un post-mortem, même si on voit avec tous les jeux qui sont en train de sortir que c'est pas encore terminé le PSVR. Et heureusement.
Pour finir, ouais, dans toutes les petites annonces, on vous rappelle un tout petit truc, c'est que Rocket Fury est à 11,99€ sur le PlayStation Store jusqu'au 19 juin. Donc ça, c'est si vous n'avez pas le PlayStation Plus, il est à moins 50%. Et si vous avez le PlayStation Plus, il est gratuit. Même si vous n'aimez pas le ping-pong, ça coûte rien. Mettez-le de côté dans la bibliothèque et téléchargez-le plus tard. Franchement, il est excellent ce jeu. La physique est super bien. En plus, maintenant, un an après sa sortie, parce que je me rappelle encore Sébastien qui rageait là-dessus. Donc il est multijoueur aussi. Donc on peut faire des parties de ping-pong avec d'autres personnes. Et la physique est super bien. Le jeu est extra. C'est gratuit. Donc allez-y à fond.
Allez-y, et puis venez sur le Discord, parce que je sais qu'on a des joueurs.
Il y en a qui sont partants pour faire des petits concours sur le Discord.
Pour tâter de la raquette et de la balle. Donc, allez-y.
Si le ping-pong, si vous avez un tout petit appartement et que vous pouvez pas mettre au milieu de votre salon une table de ping-pong, eh ben prenez Rocket Fury, il est gratuit.
Eh ben déjà, tu peux le mettre dans ton jardin, parce qu'en général, tu le fous dans ton jardin si t'as un jardin, parce que tu mets pas dans ton salon, t'as une table de ping-pong dans ton salon, toi.
Ah bah bien sûr, tu le mets devant la télé, dans la télé,
c'est dans ton
ping-pong.
Château Liechtenstein, c'est vrai que t'as de la place.
Mais je suis anti-VR, moi. Je ne joue qu'en vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que la VR, elle isole.
Oui, exactement, c'est vrai. C'est vrai que t'as des dolences, quoi.
Voilà.
Bon, bref.
Un
truc encore ?
Alors, niveau jeu, on a tout fini.
Ouais.
Je voulais parler juste de trois petits trucs rapides. C'était des rumeurs, remettre une petite rumeur PlayStation VR 2. Vu qu'on est quand même au mois de juin, et au mois de juin, bah, d'habitude, on parle de l'E3. Et là, on peut pas dire que l'E3 est bien...
L'E3, alors déjà, je vois pas, je comprends pas.
Pour l'instant, l'E3, niveau VR, ça a été un petit peu le désert total. Donc,
c'était très plat, quoi.
Voilà, c'est très plat. Et donc, il faut quand même savoir, c'est qu'il y a eu hier la conférence de Microsoft. Ce qui veut dire...
Non, excuse-moi, la conférence du Game Pass. C'est pas pareil.
Oui, la conférence de Game Pass.
Non, Xbox, Microsoft, ça n'existe plus. Hein, c'est le Game Pass.
Ouais, c'est vrai. Il faut plus dire. Ouais, c'est vrai. Il faut plus dire Microsoft ou Xbox. De toute façon, ça sert plus à grand chose, étant donné que si tu prends le Game Pass, tu auras les mêmes jeux sur PC et sur Xbox. Donc autant avoir une PS5 et un PC.
Et le Game Pass ?
Plus personne ne dit rien.
Non, bon,
c'est passé. Je me suis pas fait insulter. Oh.
Non, moi, c'est très bien ce que j'en pense de tout ça. Je vais pas remettre encore 10 balles là-dedans. Quoi.
Donc, bref, c'est pas là où. En plus, c'est toi qui m'y amène, mais je voulais pas en arriver là.
C'est vrai. Mais je sais que je te titille. J'aime bien titiller, toi, un petit peu. Ah, si je mets le bâton là, ça fait quoi ?
Mais moi, de toute façon, vous savez ce que j'en pense de tout ça. Hein.
On est fan, évidemment.
Voilà.
On est fan.
Toi, tu es fan.
On est des gros fans. C'est bon.
Donc, ce que je voulais dire par contre, c'est que il y a ce 3. Donc, il y a eu les conférences de Ubisoft qui n'ont rien montré d'extraordinaire en VR. Pourtant, on sait que Ubisoft travaille sur un triple A VR depuis pas mal de temps, qui reprend une licence sortie en 98. Donc moi, je pense plus à un truc... qu'est-ce qu'ils avaient annoncé ? C'est Assassin's Creed, c'est pas 98, c'est avant, c'est après. Avant, c'est Splinter Cell, des trucs comme ça. Ils n'ont rien annoncé encore pour la VR, donc ça arrivera peut-être pour 2022.
C'était pas 2001, puis, Splinter Cell ? Le premier Splinter Cell, c'était sur la première Xbox ?
Je crois que j'en ai vu un en 98, il me semble.
Ah ouais ?
Ouais.
D'accord.
Premier. Bah, justement, quand j'ai vu cette date, 98, je suis allé voir, et c'est vieux parce qu'on avait fait un article il y a un bon paquet de temps là-dessus. Mais il me semble bien que j'étais tombé 98, sur un Splinter Cell.
98, c'était Resident Evil 2. Et je suis pas certain que Splinter Cell est sorti en même temps parce que c'était époque PlayStation. Non, le premier Splinter Cell, c'est 2002. C'est 2002, premier Splinter Cell. Voilà. C'est bien ce qui me semblait.
Ubisoft.
Mais c'est sûr. Je l'ai devant les yeux là. Mm-hmm. Sorti sur. Attends, il est sorti sur macOS, dis donc.
Ah,
incroyable.
Bah, tu vois.
Et sur PS2.
Tu vois qu'il y a des jeux.
Sur téléphone mobile aussi, Ram. Si ça te sort sur mobile, ça sort
alors,
sur
macOS. Alors, Ubisoft, j'ai la liste. Qu'est-ce qu'ils ont sorti, Ubisoft, en 98 En 98, ils ont sorti Ashgan, The Dragon Slayer.
D'accord, très bien.
Bug Bumble, F1 Racing Simulation, Laura et le Secret du Diamant.
Ça va être celui-là, alors.
Redline Racer, Scars, The Settler 3, Tom Clancy, Rainbow Six. C'est celui-là.
Ah, Rainbow Six. Voilà.
Ouais.
C'est ça.
C'est celui-là, 98. Et c'est, c'est le premier de la série, je crois.
Ah, puis il était bien celui-là.
Tom Clancy, Rainbow Six. Donc, bon, ça devrait être ça. Tout ça pour dire que, voilà, je vais arriver à dire ce que je voulais dire depuis le début. C'est que, en cette période de E3, qui est quand même propice aux annonces des différents constructeurs de consoles et jeux vidéo, Sony n'a pas parlé. Hier soir, il y a eu la conférence de Microsoft qui a envoyé quand même pas mal de jeux. Donc à mon avis il y aura certainement une réaction de Sony, je ne peux pas concevoir qu'il n'y ait pas une réaction de Sony derrière, ça devrait arriver courant juin. Justement, il y a des petites rumeurs qui parlent d'une réaction de Sony qui vient de 4chan. Je l'ai bien dit, 4chan, c'est 4chan,
on dit 4chan. Non, vas-y, c'est bon.
Et donc là, la rumeur, c'était que d'après un email envoyé à l'un des participants de l'événement, Sony prévoirait une nouvelle PlayStation Experience pour la fin du mois de juin, donc le 28 juin 2021, pour être précis. Cet événement serait l'occasion de nous présenter le line-up à venir sur PlayStation 4, PlayStation 5, mais aussi sur PlayStation VR pour 2021 et 2022. Les invités, ce serait Guerrilla Games, Sony Santa Monica, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler de Santa Monica et ça fait un petit moment que je voulais savoir ce qu'il devenait. Santa Monica, d'ailleurs, on attend toujours un jeu qui était un truc de zombie taxi là, qui était promis, qui n'est jamais arrivé. Il y aura Capcom. Alors Capcom, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous dire alors que Resident Evil 8 est déjà balancé. C'est peut-être là qu'ils vont nous le balancer, notre Resident Evil 8 VR. Il y aurait Square Enix, il y aura Ubisoft, ce qui expliquerait pourquoi Ubisoft n'aurait rien dit durant l'E3, et Electronic Arts. Donc ça reste de la rumeur. Pour l'instant, on le dit.
On verra.
On verra bien. On verra bien si 4chan ils disent des conneries ou pas.
4chan. Mais j'espère surtout qu'Ubisoft, ils devront arrêter de faire des expériences VR uniquement pour les salles de jeux VR, parce que c'est un petit peu dommage, quoi. Ils ont des super licences, ils pourraient faire des bons trucs, même sans trop se creuser la tête. Hein. Je l'avais déjà dit en émission, mais pour moi, un mode touriste dans les Assassin's Creed, comme ils ont fait déjà en plat, mais les mettre en VR... Tu mets une petite option,
tu fais une exclu salle d'arcade pendant 2 ans et puis derrière tu rebascules sur console, comme ça ça fait vivre tout le monde.
Parce que mine de rien, il y a quand même du Far Cry, du Assassin's Creed, tout ça, c'est réservé aux salles de jeu.
Il y a de la bonne licence, quoi. J'espère que. Ben en plus, c'est un super plan marketing, c'est un super plan de vente, quoi. Tu vends d'abord tes grosses licences assez chères aux salles d'arcade et puis derrière, après, le jeu il est fait, il est juste adapté par une petite équipe. Et tu la revends une deuxième fois sur le grand public.
Parce que ils vont peut-être le faire. Tout le bien que je pense des salles d'arcade VR, c'est très très bien. Tu as des choses que tu peux proposer en salle que tu ne peux pas forcément proposer dans le salon des gens. Ça reste quand même très frustrant de devoir utiliser un matos qui n'est pas le tien.
Surtout en ce moment.
C'est compliqué, mais après, il y a tout ce qui est. Tout est bien mis en œuvre justement pour que ça fonctionne et c'est très bien. Mais tu vois, même avoir une version light, tu vois, pas forcément une version room scale, une version aussi pointue que les versions qu'il y a en salle d'arcade, mais au moins des petits trucs, des petites expériences, tu vois, qu'on pourrait acheter pour nous dans notre salon, quoi. J'aimerais bien. Surtout de la part d'Ubisoft, parce qu'ils sont bons, Ubisoft, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le faire.
Et non seulement ils sont bons, et puis surtout, ils ne chient pas sur la VR, quoi.
Ils continuent. Hein.
C'est des bons acteurs pour... c'est des bons soutiens dans tous les domaines du jeu vidéo, et ça vaut cher aujourd'hui.
On peut critiquer tout ce qu'on veut d'Ubisoft, mais au moins, c'est vrai que... Et beaucoup de choses d'Ubisoft.
Ah, ils ne sont pas parfaits. Ils font comme les copains. Les copains sont
très loin de parfaits.
Si les copains sont des raclures pour faire du fric, aussi, ils font pareil. Hein. Mais au moins, quand les copains ils disent « la VR, j'y chie dessus, j'y reviendrai quand ça me rapportera du pèse », eux, ils sont là depuis le début à se faire chier quand même, à sortir des jeux et puis à faire peut-être même des bids sur certains jeux.
Ils ont déjà fait.
Voilà. Mais ils n'arrêtent pas, quoi. Ils en font. Ils y croient. Donc rien que ça, franchement, pour moi, ça vaut cher.
Respect. Respect par rapport à d'autres, gros respect. Ok.
Donc jusqu'à présent, on parlait d'une rumeur de 4chan, mais maintenant, on va parler d'autre chose que beaucoup vont qualifier de rumeur aussi, mais c'est un peu nuancé par contre, parce que c'est Ming-Chi Kuo. Alors Ming-Chi Kuo. Attends, est-ce que je vais arriver à le dire deux fois?
Là, je peux pas t'aider. Ming-Chi
Kuo. Ming-Chi Kuo.
Ming-Chi Kuo. Là, t'es tout seul. Ouais. Là, t'es tout seul. Très bien.
Alors, c'est bien. Ming-Chi Kuo, en fait, il est connu. C'est un analyste qui travaille chez TF International Securities et il est vraiment connu, lui, dans le milieu informatique, notamment sur toutes les sites style Mac Generation ou des sites comme ça, spécialisés dans les Macintosh, Apple. Pourquoi ? Parce qu'il travaille avec tous les fabricants. Les fabricants de composants et tout ça. Et c'est lui, il a balancé deux, trois vérités. Et maintenant, il est suivi en fait par toute la presse spécialisée. Dès qu'il y a, il est considéré, il a une réputation du meilleur analyste Apple, au point que la plupart des journalistes et des investisseurs scrutent aujourd'hui tous ses rapports censés donner le cap des innovations à venir, en fait. Donc, ce Ming-Chi Kuo. Quoi donc il s'occupe
ce monsieur,
de tout
ce monsieur.
Voilà, il s'occupe de ses clients et donc il récupère des informateurs, des contacts dans la chaîne d'approvisionnement asiatique et pour différentes marques. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, ce monsieur, il a parlé pour une fois récemment pas de Apple, parce que là, quand il parle de Apple, il y a toutes les forums en bourse qui explosent. Mais plutôt de Sony. Il a parlé à la fois du Quest 2 de Facebook et de Sony. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend ? D'après ces informations, le fabricant d'objectifs taïwanais, oh putain le nom, alors Yu Ying Wang,
très bien.
Le fabricant d'objectifs, donc taïwanais Yu Ying Wang, travaillerait en ce moment même sur des commandes d'objectifs et de lentilles pour le PSVR 2 de Sony. La commercialisation du PlayStation VR 2 serait prévue pour le deuxième semestre 2022, donc ce serait plutôt à partir de juin 2022 d'après ses calculs. Il estime que les objectifs des caméras de cette nouvelle génération coûteraient 6 à 8 fois plus cher qu'un objectif d'un smartphone. Attention, là on parle de l'objectif de la lentille des caméras. On ne parle pas des lentilles en verre du casque. Mais cette même société taïwanaise va aussi s'occuper des lentilles du PSVR 2 et du Quest 3 ou du Quest Pro, je sais pas comment, Quest 2 Pro, je sais pas comment il va s'appeler le prochain. Et donc il a déclaré qu'il s'attend à une plus grande clarté et un champ de vision plus large des deux nouveaux casques Quest Pro et PSVR 2. Pour l'instant, Yu Wing Gang fabrique actuellement environ 50% des objectifs Oculus Quest 2 et devrait continuer à fabriquer environ 50% des nouveaux objectifs de casque VR de Facebook et de Sony pour ses produits de 2022. Et enfin, il a précisé également que le PSVR 2 devrait non seulement avoir des lentilles de meilleure qualité, mais également 4 caméras sur le casque, ce qui nous confirme donc un tracking comparable au Quest 2. C'est ce qu'on a fait à peu près sur tout... Je crois que j'ai mis 4 caméras sur pratiquement tous les concepts de casque qu'on avait fait. C'est deux petites nouvelles, quoi. Donc éventuellement, on sait déjà que le PSVR 2 devrait avoir 4 caméras et qu'il y aurait un plus grand champ de vision, le plus grand champ de vision étant en plus validé par Sony, qui a déjà dit que tout serait mieux en fait sur le PSVR 2. Donc,
Tu m'étonnes.
Petit détail qui était intéressant par contre, c'est au niveau de ses estimations de vente, où c'est là où on voit que quand même pour un analyste, donc il a pour lui, il s'attend à 8 à 9 millions de casques Quest 2 expédiés en 2021. Donc c'est quand même un chiffre qui est relativement haut à mon avis. Si on en est peut-être à 5-6 millions actuellement, ouais, c'est possible encore, pourquoi pas.
Ce qui serait pas mal, hein, pourquoi pas.
Et il estime la production de Quest 3 et de Quest Pro entre 18 et 20 millions d'unités pour 2022. Alors ce chiffre, il m'a fait halluciner parce que là, 20 millions d'unités, on commence quand même à chatouiller du marché.
Niche.
C'est plus de la niche à 20 millions, donc ça commence à devenir intéressant. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est rarement trompé. Ça lui arrive hein, de se tromper, mais en général, il a des très bons contacts dans l'industrie. Et puis, de toute façon, quand Sony ou Facebook commencent à passer des commandes, bah, il y a des fuites, hein, parce qu'il y a forcément un mec qui va prendre la commande et puis ils vont dire, tiens, pourquoi il achète ça. Donc, c'est pas complètement...
anodin.
C'est pas anodin, voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je voulais finir aussi par un article qu'on a fait sur le Wi-Fi 6 de la PS5. Il y a eu pas mal de monde, notamment sur We Are PlayStation, qui ont posé des questions sur ce fameux article, qui ont demandé pourquoi, qu'est-ce que ça voulait dire, quoi, le PSVR 2 n'aura pas de fil. Alors, c'est pas ce qu'on a dit. c'est pour ça que je voulais préciser le truc. En fait, le module intégré à la PS5 est un module Wi-Fi 6. Je vous rappelle que la PS5 est la seule console actuelle next-gen qui dispose d'un module Wi-Fi 6. La Xbox Series X n'a pas de Wi-Fi 6. Donc déjà, pourquoi Sony a mis du Wi-Fi 6 alors que son concurrent ne l'avait pas? Ça augmente le prix de la console inutilement.
Donc si c'est pas utilisé.
Donc bien sûr, l'intérêt du Wi-Fi 6, ce sera d'avoir un meilleur débit. Donc là, on parle même pas de on parle de perte. Hein. Si vous avez une réception de merde chez vous de 20 mégas à l'arrivée de votre box, quand vous allez passer en Wi-Fi sur votre PS4 Pro, par exemple, vous allez vous retrouver avec 10 mégas, voire 7 mégas. Ça, tout le monde a dû le constater. Avec du Wi-Fi 6, eh ben, vous avez 20 mégas qui arrivent à la maison, vous aurez peut-être du 15 au lieu d'avoir du 6. Voilà. Donc il y a déjà cet avantage là, c'est d'avoir un meilleur mais surtout l'avantage c'est que le Wi-Fi 6 c'est justement le réseau Wi-Fi utilisé par le Quest 2 pour faire fonctionner son Oculus Link, Air Link même, c'est comme ça que ça s'appelle, l'Air Link,
ouais. L'Air Link il me semble, ouais.
Voilà. Donc, en gros, c'est du... le Wi-Fi 6, c'est quoi? C'est du 802.11ax. AX, c'est le nom de ce fameux Wi-Fi. Sa particularité, c'est comme les autres, il fonctionne sur les deux bandes 2,4 et 5 GHz. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ce Wi-Fi 6 de Sony va fonctionner en 80 MHz. Il peut monter plus haut, il peut monter jusqu'à 160 MHz, mais là, en 80 MHz, le Wi-Fi 6 autorise déjà un débit de 4,8 gigabits seconde. Et surtout, ce qu'il fallait retenir là-dessus, c'est que il y a une toute petite correction. Il va y avoir une correction sur la nouvelle PS5. Alors, tous les journalistes ont parlé d'une nouvelle PS5, qu'elle est arrivée. En fait, c'est rien du tout. Ils vont changer la puce Wi-Fi. Qu'est-ce qui va changer? Eh ben, c'est juste le faisceau en fait Wi-Fi qui sera plus ciblé que étendu en fait. Donc en fait, faut pas prendre que vous ayez une première version de la PS5 ou une nouvelle version de la PS5, ça changera absolument rien. C'est juste des petits réglages qui changent, mais ça change absolument rien en fait. Mais surtout, ce qu'il fallait retenir, c'est que ce débit autorise plusieurs types de modulation. Donc ça, je parle de la fiche technique de la puce qui est intégrée à la PS5. Donc ça, c'est pas une rumeur, c'est vraiment écrit sur les fiches techniques de Sony et qui autorise la modulation 1024 QAM. Ça veut dire quoi? Donc pour ça, je suis allé voir chez Cisco, qui sont quand même l'entreprise informatique américaine la plus connue et spécialisée dans le réseau, et qui eux ont clairement dit que le 1024 QAM permette de bénéficier de nouvelles capacités telles que la réalité virtuelle immersive de qualité professionnelle à l'aide de visiocasques sans fil. C'est la même chose qu'il y a dans le Quest 2, parce que le Quest 2 a sa petite puce Wi-Fi. Sa petite puce Wi-Fi, c'est quoi? C'est le XR2, c'est la puce Snapdragon qui a un module Wi-Fi intégré. Donc là, on sait déjà que la PS5, elle a sa puce qui fonctionnera très bien. Si maintenant, on nous dit qu'il y a une petite puce dans le PSVR 2, eh ben c'est bingo, ça veut dire qu'il n'y aura pas de fil. On pourra faire fonctionner ce PSVR 2 sans fil. Les détails qu'il va falloir vraiment regarder quand ils vont annoncer ce PSVR 2, c'est savoir si le fil est, peut être détaché. Ou est-ce qu'il est, il est fixé sur le casque. Et savoir s'il y a cette fameuse puce, une puce. Alors, la XR2, c'est un tout. C'est vraiment un APU complet qui calcule, mais ça peut très bien être une petite puce Wi-Fi qui est à l'intérieur du casque et qui va communiquer avec la PS5. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que oui, le PSVR2 aura bien de l'USB-C avec un fil. Mais oui aussi, c'est possible qu'il y ait une option qui permette de jouer tranquillement dans son salon en streaming devant sa console sans fil du tout.
Vivement qu'on soit fixé là-dessus en tout cas.
Voilà. Autre chose sur il y a eu des petites conneries qui ont été annoncées par Android Central. Bon, ils disent des conneries, des fois ils disent des trucs bien. Ils avaient annoncé que le Quest 2 utilisait un Wi-Fi 802.11AY, donc c'est le fameux réseau Wi-Fi qui est en 60 GHz, lui, en très courte portée, mais en très haut débit en fait. Ce qui est totalement faux, parce que en fait, on s'aperçoit que quand on regarde cette puce XR2, elle fonctionne avec Qualcomm Fast Connect 6800. Et quand on va voir les caractéristiques de Fast Connect 6800, on s'aperçoit qu'elle ne prend pas en compte le 802 AY. Donc ça, c'était faux. Des fois, il faut que les journalistes vérifient en fait. Par contre, pour tout le reste, le réseau Wi-Fi de la PS5 est très comparable à ce qu'on a sur Quest 2, entre un Quest 2 et un PC. C'est pour ça que franchement, là moi je ne serais pas du tout étonné que ce PSVR 2 lors de son annonce, ce soit la petite cerise sur le gâteau et puis il nous le débranche en pleine présentation. Quoi.
Ah, ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui râlent justement encore sur la présence de ce fil et qui ont déjà préparé leur...
Ils ont sorti le fusil de chasse, ils sont déjà en train de nous tirer dessus.
Ils ont déjà Sony dans le viseur et le PSVR 2 dans le viseur. Juste pour appuyer sur la détente. Donc voilà, vivement qu'on en sache plus en tout cas.
Non, mais là, le premier, voilà, quand ils vont parler du PSVR 2, soyez très attentifs à ça. Est-ce qu'il y a une puce Wi-Fi? Et s'ils ne parlent pas de ça, ça veut pas dire qu'ils en ont. S'ils en parlent pas, ça veut pas dire que ça n'y sera pas. Mais est-ce que le fil du casque peut être retiré, quoi? Peut-être amovible.
Un petit détail qui en fera quand même pas mal.
Où est-ce qu'ils ont prévu un deuxième casque plus haut de gamme qui n'aura pas de fil? Ça aussi, c'est possible. À suivre.
On verra. Vu que c'est un petit peu la mode des gammes, des multigames dans les consoles, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être aussi une option envisageable. Du coup, t'as fait le tour, mon petit Lolo ?
Ouais, je voulais juste préciser ce fameux fil USB-C là, que tout le monde gueule et tout. C'est quand même l'USB-C, c'est Virtual Link. Ça a été un peu abandonné par Nvidia, qui n'est plus présent du tout sur les RTX 3070, 3080, 3090. Par contre, ce USB-C, je vous parle souvent du petit trio de choc Sony, AMD et Epic Games. C'est marrant aussi parce qu'il y a quand même des similitudes. On sait quand même que la RX 6800, la RX 6800 XT et la RX 6900 XT ont toutes une prise USB-C. La seule carte qui n'a pas d'USB-C, c'est la RX 6700 XT. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que le PSVR 2 fonctionnera sur PC, je dirais qu'officiellement, c'est très probable que ce soit un non. Mais je serais pas étonné que, en fait, tout est fait pour que n'importe quel bidouilleur arrive à créer quelque chose pour le faire tourner sur PC. Donc un casque en USB-C, à mon avis, ça sera pas très compliqué à l'amener sur PC.
Donc là aussi, comme le premier PSVR, quoi.
Exactement. Même mieux, parce que le premier PSVR, ça marchait pas top. Mais
c'était un peu la chiant. Ouais.
Là, à mon avis, ça risque de bien marcher. Donc en gros, soyons patients, mais j'ai pas trop d'inquiétude de ce côté-là.
Ok. Voilà. Tu me dis, hein, si c'est bon ou pas.
C'est bon. Je crois que j'ai fait le tour.
Ok, ça marche. Bon, on va finir, je pense, sur des jeux. Et pas des moindres. J'ai eu l'honneur de tester un jeu qu'on attendait quand même beaucoup, au vu des premiers visuels et puis de la jaquette, surtout, sur le PS Store.
La police de caractère.
La police de caractère aussi. Il y a tout, voilà, qui est vraiment de très très bon goût et qui augurait quelque chose d'assez exceptionnel. Et franchement, j'ai pas été déçu. Donc c'est Horror Adventure VR.
Triple A.
Triple A dans ta face, ouais. Donc c'est un jeu. Par où commencer ? C'est un jeu de Yash Future Tech Solutions. C'est un studio indien.
Mais c'est ta grand-mère qui t'a payé le jeu ou ?
Non, bah ouais, parce qu'en fait, elle m'a donné 2 euros pour me payer des bonbons. Et du coup, moi, comme je suis un petit rebelle et que j'aime bien jouer aux jeux vidéo, bah, j'ai acheté ce jeu. Voilà, donc on ne remercie pas.
Tu sais que tu dois être le seul en France à avoir payé pour jouer à un jeu.
C'est fort possible et j'espère franchement que personne... Non, malgré mon amour pour les studios de développement et les développeurs et ceux qui essaient de faire des choses, de proposer quelque chose, là je peux pas quand même. Je peux pas vous dire, même par curiosité, aller essayer ce truc-là. Donc c'est un jeu effectivement, donc il est à 10 euros normalement et jusqu'au 19 juin il est proposé à 2 euros. Déjà t'as 80% de réduction alors que le jeu vient de sortir. Je sais pas du coup si ça, si c'est juste voilà, une erreur sur le store ou quoi, mais. En tout cas, voilà, vaut mieux, quitte à tenter le coup, vaut mieux l'essayer à 2 euros qu'à 10 euros. À 10 euros, ça fait vraiment...
Ça fait moins mal. Ça fait gros la carotte.
Hein. Mm. Ouais, ça fait vraiment gros la carotte. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un jeu d'aventure, d'horreur, en VR, comme son nom l'indique. Ouais. En gros, tu arrives, tu joues à la manette, un temps de chargement extrêmement long au départ.
Ah, parce qu'en plus, c'est long à charger.
C'est extrêmement long à charger. C'est extrêmement moche.
Ouais, ça j'ai vu.
T'as pas de texture, t'as des animations extrêmement sommaires. Non, en gros, c'est un jeu. Comment le décrire ? C'est un jeu fait, random en fait.
Fait par des étudiants en première année.
Ah, mais ouais, mais sans le talent quoi, vraiment. Mm. C'est un jeu à jumpscare. C'est un jeu à jumpscare. En gros, même si j'ai chié un petit peu sur l'adaptation de Layers of Fear sur PSVR. Oh, c'est un chef-d'œuvre, hein. c'est un joyau brut à côté. Hein. C'est hallucinant. En fait, les décors sont random. Les murs, c'est des textures. Mais tu sais, juste une texture, en fait.
Ouais. Plaquée comme ça, sur un mur plat.
Voilà, mais voilà. C'est comme une feuille de papier, si tu veux.
Un polygone. Allez, pouf, on fout une texture dessus, hop, on a le jeu.
Ah, mais une texture, voilà, où t'as aucune résolution, quoi. T'as pas d'effet de lumière ni quoi que ce soit. Il était sorti sur PC déjà il y a quelques mois, même quelques années. Il y avait quelques effets supplémentaires dessus. Là, le jeu, il a été raboté, mais alors comme il peut. Il est pété de bugs. C'est du jumpscare en fait qui va te tomber dessus, mais vraiment, c'est ridicule quoi. Ça fait plus rigoler qu'autre chose.
Comment c'est possible que ça arrive sur le store ça ?
Je comprends pas. Je comprends pas comment ça a passé la validation de Sony. Alors peut-être que techniquement justement ça tourne en 60 FPS et il y a pas de problème.
Ça peut tourner à 120, hein, on s'en fout si c'est nul.
Ça peut même tourner à 120, la même chose, sans difficulté je pense. Mais rien ne marche, c'est-à-dire que les éclairages bug, les animations bug, les décors sont buggés, il n'y a pas de cohérence justement dans la construction des décors. D'ailleurs j'ai fait une vidéo hein, sur Vrak, tu regardes la vidéo, tu vois, là j'y suis vraiment en découverte hein, parce que je me doutais un petit peu avec la tronche de la jaquette, je me doutais un petit peu sur quoi j'allais tomber.
Bah, déjà la partie graphique sur la jaquette, tu rigoles.
Sur la jaquette, wow. Et bah voilà, tu vois un petit peu l'espèce de projet étudiant mais genre primaire de la jaquette, et bah voilà, le jeu c'est exactement la même chose. Tu peux passer ta tête à travers les murs, donc tu vois de l'autre côté des décors. Tu montes des escaliers, ça je l'ai pas mis dans la vidéo, mais tu montes des escaliers, ben tu peux retomber en fait à l'étage d'en dessous sans prévenir en fait, juste parce que à mon avis il y a peut-être une zone qui a pas été qui est pas prise en compte en fait sur l'étage du dessus, donc en fait t'as un petit trou et ben ton personnage hop il passe à travers. Qu'est-ce que t'as d'autre ? T'as le son qui est mal monté, t'as les scripts qui fonctionnent pas, au bout d'un moment le jeu a arrêté de fonctionner pour moi. C'est-à-dire que je tournais en rond et que le trigger qui devait normalement enchaîner les actions, bah, il n'est jamais arrivé.
Non, mais c'est un poisson d'avril en fait ce truc.
Non mais c'est un jeu, spécial Majo, c'est un jeu pas fini. Hein. Ça il n'y a pas de problème, c'est un jeu qui n'a
jamais commencé tu veux dire. Hein.
Jamais commencé, jamais fini. Voilà, il m'a surpris une fois, c'est dans la vidéo où à un moment t'as un espèce de gars... mal polygoné, moche, qui te fonce dessus en faisant Ok, ça m'a surpris. Voilà, c'est le seul truc qui m'a fait un petit peu sourciller, hausser le sourcil. C'est buggé, tu vois, la meuf dans son espèce de baignoire, il y a les textures qui apparaissent pas, quoi. Je veux dire, ça ressemble à rien. C'est lamentable. Franchement, même pour l'effort.
L'un des plus mauvais jeux de tout le catalogue possible.
Bah,
on en a eu des beaux, hein, mais.
Franchement, ça m'a fait penser à Nullar.
Il a l'air bien.
Ça m'a fait penser à Nullar Stone, tu vois.
Ah oui, oui.
Je crois le jeu le plus pourri que j'ai fait, vraiment un truc, mais immonde, pas terminé. Genre, tu sais, on le balance et puis on va voir. Sur un malentendu, ça peut passer.
Bah, c'est ça.
Tu vois. Surtout, et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que le jeu a été proposé à moins 80% dès
alors,
le départ.
Alors,
c'est...
surtout, on n'offre pas de code, on ne fait pas de press kit pour la presse, parce qu'il ne faut pas qu'on parle de nous. Il faut que ce soit le mec qui tombe sur le store. Oh, tiens, un jeu d'horreur, je vais essayer. En fait, c'est des jeux qui fonctionnent au piège.
Faut un bon con comme moi, voilà. En fait, qui se dit putain, 2 euros au lieu de 10 euros, bah, c'est une affaire, je vais essayer à ce prix-là. Et boum. Et voilà,
le studio qui travaille depuis 4 ans sur un jeu et qui a fait du bon travail et qui a une équipe solide et qui fait un jeu en lequel il croit, il fait des conférences de presse, il communique, il veut à tout prix parler de son jeu à différents médias. Quand un jeu comme ça arrive avec une jaquette de merde, même un gamin de, même ma fille de 10 ans pourrait faire mieux dans Photoshop.
C'est clair.
Avec aucune communication derrière, aucune photo livrée, rien du tout. On n'a aucune information, ça pue l'arnaque, mais à plein nez. Donc en général, ça. Et puis claquer 10 balles là-dedans, alors que tu peux choper Dreams à. Bon, en ce moment, il est à 40 balles, Dreams, mais il doit y avoir des. Je pense à Dreams parce que tu dois avoir des expériences 100 fois mieux dans Dreams que
mais carrément, que, voilà. Mais carrément, ça n'a rien à voir. En fait, tu as même des vieux modes pourris qu'il y avait sur Half-Life le premier, qui sont 10 fois meilleurs que ça.
Voilà.
Mais sans aucun problème. Non, mais c'est vraiment une catastrophe, quoi. Mais non, il y a rien à sauver. Enfin, je veux dire, les textures bug, les décors bug, les scripts bug, les sons bug, les triggers bug, bug.
Tu veux dire qu'en ce moment où on n'a pas grand-chose à dire, vu que personne veut parler sur la VR, on pourrait se faire un petit top 20 des pires jeux du PlayStation VR, alors.
Bah, franchement,
un tomato PlayStation VR.
Tu sais quoi? Alors, est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on s'engage ce soir, dans une semaine et demie maintenant? C'est la prochaine émission d'autour d'un VR,
ouais.
Et la dernière de la saison, avant cet été.
Ah, pour la prochaine émission, on pourrait se faire. Chacun choisit ses pires jeux.
Est-ce que tu veux qu'on se termine
la saison? Drôle. Ouais, ça peut être drôle.
Sur les pires merdes qu'on a pu
tester. Les pires merdes du catalogue depuis 2016, depuis le 13 octobre 2016. Ah, ça peut être drôle, parce qu'il y en a.
Franchement, en plus, ça a été demandé sur le Discord, donc franchement, ça peut être le moment. Ouais,
on peut le faire, ça peut être sympa.
Voilà. Ah bah allez. Bah, rendez-vous du coup dans 2 semaines pour avoir les pires merdes qu'on aura pu tester sur le PSVR. Et franchement, il y en a, je pense qu'il y aura des choses à dire.
Je pense
qu'on va se marrer.
J'ai quelques souvenirs. Moi aussi, j'ai passé mes mauvais moments de solitude à me dire putain, faut que je fasse ce test de ça. Je veux pas le faire.
Mais pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment une passion? Est-ce que vraiment je dois faire ce genre de choses?
Mais qu'est-ce que je fais de ma vie?
Donc voilà. Donc bah, déjà, si vous voulez un aperçu de Horror Adventure VR, bah, allez voir sur Vrac la preview. Vous allez pas être déçus. Hein. Et comme dit Philippe C sur Discord justement, il a sorti Dewey de Malcolm. Je m'attendais à rien, j'ai quand même été déçu. Bah ouais, c'est exactement
c'est ça.
Franchement, c'est exactement ça. Donc voilà, c'était Horror Adventure VR. N'achetez pas ce jeu, c'est une merde. Voilà, clairement. Ensuite, j'ai pu tester Star Wars Pinball VR.
Mm-hmm.
Alors je suis pas un gros fan de pinball en VR. Je sais qu'il y avait Spanks qui m'avait montré. Je crois que c'était Zen Pinball à l'époque.
FX2, Pinball FX2, FX2 ouais. du même studio. Hein.
Exactement.
Qui était chouette en plus celui-là. Il était très chouette.
Et bah justement, il m'avait vraiment tanné sur celui-là. Je l'avais essayé chez lui. Effectivement, en fait, t'avais pas mal de plateaux. Les plateaux étaient plutôt diversifiés et sympas. Et le jeu était plutôt joli avec les décors autour qui évoluaient au fur et à mesure de ta partie. Donc vraiment un bon jeu de flipper. Avec une bonne ambiance. Et donc là, ils sortent Star Wars Pinball VR, donc toujours Zen Studio qui fait ça. Il sort à 24,99€. Ça peut paraître un petit peu cher, il n'y a que 8 tables dessus pour le moment en tout cas, comprenant Mandalorian, épisode, tous les spin-offs, je crois qu'il y a
tous les meilleurs Star Wars, quoi.
Il y a Solo, hein. Donc calme-toi. Même si j'ai bien aimé Solo.
Ah non, j'ai dit tous les meilleurs Star Wars. Donc ils y sont tous, sauf la dernière trilogie.
Voilà, et pour le moment, je crois pas qu'il y ait la première non plus, en tout cas.
Si, j'ai une bêtise. Il n'y a pas le 1. Si. Avec Jar Jar. Ils l'ont pendu.
Effectivement, il n'y a pas le 1, mais y a, en tout cas, il y a Qui-Gon, il y a Yoda jeune.
Solo, il n'est pas mauvais, Solo.
Solo, je l'ai bien aimé en plus.
Je ne l'ai pas trouvé nul, franchement.
Il y a Rogue One, donc épisode 4, 5, 6, évidemment.
Le premier qui dit du mal de Rogue One, par contre, je ne lui parle plus.
J'ai pas trouvé ça ouf.
À partir de la prochaine émission, je te parle plus pendant 2 mois, jusqu'en septembre.
Pendant 2 mois, au moins, sauf si on fait une petite émission spéciale.
Voilà.
On la fera, notre émission spéciale Star Wars, Lolo, t'inquiète pas.
Ouais, faudra.
On pourra s'écharper.
Ouais, mais alors, on invitera du monde là. Ah ben non, putain, ils sont de ton côté en plus. Faut pas que j'invite lui.
Ah, pas forcément. Bon, on verra. Bref, en tout cas, voilà, Star Wars Pinball VR, franchement bien. Je suis pas un gros fan de flipper, j'ai toujours été mauvais dans les vrais flippers. Je suis toujours aussi mauvais d'ailleurs, même quand c'est en VR. Mais t'as un mode histoire, enfin un mode histoire, plutôt un mode aventure, on va dire. Donc t'es dans ta salle et tu dois enchaîner les tableaux avec des espèces de missions imposées plateau par plateau. Et en fait, ça va te faire gagner des points, ça va te faire gagner des sortes de crédits pour pouvoir ensuite acheter des goodies comme, je sais pas,
le casque de Boba Fett.
Par exemple, oui.
J'ai vu qu'il y avait un porte-casque, donc c'est pour ça que je parlais du casque.
Tu peux avoir ça, t'as des mannequins avec donc des fringues de Stormtrooper ou alors de personnages connus de la saga. Mm-hmm. Tu peux changer les affiches. En fait, c'est comme dans ton petit salon chez toi, comme si tu avais ton salon de jeu avec ton flipper au milieu. Tu as des vaisseaux qui sont suspendus. Tu as des petits trophées, des petites statuettes avec plein d'étagères. En fait, c'est une grosse chambre de geek, mm-hmm. en fait, où tu peux mettre tous tes trucs. T'as un gros Jabba dégueulasse dans un coin. T'as un AT-AT géant sur le côté. Enfin, vraiment, c'est bien foutu, une bonne ambiance. Avec le petit jukebox aussi où tu peux débloquer des musiques. Et en fait, donc voilà, avec ton mode d'aventure, tu vas pouvoir débloquer des crédits qui vont te permettre de pouvoir débloquer ensuite des goodies pour faire la décoration de ta pièce. Et l'intérêt en fait de ce jeu-là, exactement comme Zen Pinball FX mon cul, là, je sais plus comment il s'appelle. Et ben en fait, c'est l'ambiance pendant que tu joues.
C'était ça, mais sans mon cul.
Voilà, c'est ça.
Pinball FX2.
J'étais blessure.
T'étais pas loin.
J'étais pas loin. Quand je sais pas, je dis mon cul, comme ça passe en général. Et en fait, ouais, c'est l'ambiance. Quand tu joues, en fait, t'as des éléments de décor. Par exemple, sur le plateau de l'épisode 4, t'as le jeune Luke Skywalker qui est à côté de toi avec son sabre laser. T'as R2-D2 sur la gauche. T'as des vaisseaux qui virevoltent tout autour. T'as des choses qui se passent aussi sur le plateau. C'est extrêmement bien animé, extrêmement. Y a une grosse mise en scène dessus et ça change tout le temps et même si pour moi je t'avoue franchement le flipper ça a toujours été je balance ma bille au hasard selon ce que ça tape, des fois ça fait des bruits différents, des fois ça prend des rampes, ça clignote d'un côté, je sais même pas pourquoi, et donc c'est comme ça que je joue en fait, je joue pas du tout stratégie, mais je pense justement que ce jeu là te pousse à jouer un petit peu plus stratégie, à essayer de comprendre ce qui se passe dans les plateaux sur certaines zones quand tu balances ta bille, parce que quand tu vas faire des actions, quand tu vas répéter tes actions, tu vas avoir le choix ensuite entre plusieurs mises en scène sur un plateau. Ça peut aller jusqu'à 5 mises en scène différentes. Par exemple, quand tu es dans le plateau, je fais par rapport à mes souvenirs, hein, j'ai pas fait de capture, mais quand tu es sur le plateau de l'épisode L'Empire contre-attaque, mm-hmm. et ben en fait tu peux choisir le combat final avec Dark Vador, ou alors Bespin, ou alors la trahison de Lando. Tu vois, t'as tous ces trucs là en fait, ça te propose des missions différentes, soit défoncer des Stormtroopers avec ta bille, ou alors essayer de passer le mur de force de Dark Vador. T'as plein de trucs comme ça, t'as plein de mises en scène, t'as le plateau qui change en fait, t'as toutes les parties du plateau qui se retournent, qui se transforment pour avoir de nouvelles mini-missions en fait sur ton plateau. C'est ultra diversifié. Donc c'est pour ça que tu peux dire que 8 plateaux, c'est pas énorme. Mais en fait, non, en fait, un plateau, t'as 5 trucs différents dedans, en fait.
Il y a beaucoup à faire, ouais.
T'as beaucoup à faire. Et si t'aimes le flipper, franchement, et si t'aimes Star Wars, c'est un must-have, vraiment. 25€, je trouve que c'est peut-être un petit peu cher pour ce genre de jeu, mais je veux dire, quand t'es fan, tu comptes pas. Et donc, du coup, ça reste vraiment très très plaisant. et pour faire découvrir aussi ce genre de jeu là, la VR à des gens qui connaissent pas trop avec ce genre de jeu là, c'est, tu prends pas trop de risques quoi. En général, ça marche.
Bah, c'est la question que beaucoup doivent se poser, c'est, j'aime pas le flipper, est-ce que je vais aimer ça quoi? Mais j'adore j'aime pas le flipper, mais j'adore Star Wars par exemple. Est-ce que je vais aimer?
Et j'aime pas le flipper. Enfin, je ne comprends rien au flipper. Je suis complètement random player de flipper, c'est-à-dire que je fais n'importe quoi.
Et je
prends quand même du plaisir en fait à jouer à Star Wars Pinball.
Ouais, donc c'est,
parce
ouais,
qu'évidemment,
c'est bien. C'est ce qui en était ressorti. Bah, c'est quand on en avait parlé donc de Pinball FX2. C'était ce qui était ressorti aussi. Ouais, voilà. Il y avait un requin, il y avait un truc des dents de la mer, il y avait plusieurs trucs. Et ce qui était ressorti, c'était ça, c'était que même si t'aimais pas le flipper, t'avais quand même, c'était tellement bien foutu que
ça bouge tout le temps.
Ça t'emmenait dans un autre monde, quoi.
Ça bouge tout le temps, ça clignote de partout tout le temps. Seulement, le flipper, ça vieillit un petit peu, c'est un petit peu le jeu à papa maintenant. Donc, à part, avec ton verre de bière dans les pubs, avec des potes autour, il n'y a plus trop d'intérêt. Bah justement, en fait, grâce à l'apport des licences, Zen Studio, ils ont réussi quand même à redynamiser un petit peu le flipper. Et non, franchement, c'est sympa. Tu passes vraiment un bon moment dessus. Tu t'éclates. Comme tu disais tout à l'heure, c'est typiquement le genre de jeu que tu sors. Tu as envie de jouer une heure et demie. Tu n'as pas envie de te prendre la tête. Tu mets ton casque, tu te fais une partie vite fait. Tu arrêtes, tu n'as pas de scénario à suivre ni quoi que ce soit. Tu te fais plaisir. T'es dans ta petite chambre de geek que t'aménages au fur et à mesure, et puis t'es bien quoi. T'as passé un bon moment. C'est pas le genre de jeu que tu vas poncer comme un barjot, sauf si vraiment t'es un gros fan de flipper. Mais bon, moi je connais pas des masses, mais c'est le jeu que tu sors de temps en temps avec plaisir pour dire, putain, franchement c'est pas mal quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai été surpris de bien aimer.
Alors par contre, je voulais préciser un truc sur ce jeu là, c'est que le studio Zen Studio nous ont passé une clé avant la sortie du jeu et qu'au départ on devait le tester pour la sortie du jeu et donc forcément quand on a vu le jeu était, parce qu'on avait déjà eu justement le Pinball FX2 qui était très très net, qui était très joli sur PSVR, et là quand on a lancé celui-là, c'était une véritable catastrophe, il était dégueulasse. Il était flou, il était pas beau, il avait tout. D'ailleurs, sur internet, quand il est sorti, il s'est assez fait déboîter. Les gens ils ont dit, comment vous avez pu sortir le Pinball FX2 qui était très beau et que là vous nous faites la version Star Wars qui est dégueulasse. On a cherché des excuses, on a dit il y a peut-être trop de polygones ou ils ont baissé je sais pas quoi. Bref. Du coup, les développeurs ont quand même bûché, ils sont aperçus qu'ils avaient peut-être un peu trop forcé trop baissé
sur
les niveaux.
Myopie.
Voilà. Et du coup, nous, c'est ce qu'on avait dit. On avait dit, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait là? On teste un jeu pour lui foutre un 3 ou un 4 sur 10 si le machin il est complètement moche. Ou est-ce qu'on attend qu'il y ait des patchs et on le notera quand il sera en bonne qualité. C'est pour ça que vous avez certainement remarqué que les tests arrivaient toujours un peu en retard sur PSVR, sur le site VR4Player. Là, c'est qu'on a dit on ne va pas les fracasser non plus, on va attendre. Puis quand le jeu il sera bien, on mettra une meilleure note, quoi, plutôt que de le fracasser d'entrée. Quoi.
Alors, à noter que du coup, moi je l'ai acheté sur Steam, donc j'ai joué sur PC. À ce jeu là et du coup sur PC y a pas de problème de flou, le jeu de base est pas excessivement net, mais il y a peut-être des options en fait pour upscaler le jeu et rendre extrêmement fin, voire même tellement fin que quand tu mets les options à fond, t'as l'impression que c'est du cel shading un peu. C'est très bizarre en fait, ça sature les lignes de démarcation entre deux couleurs, donc ça donne un effet un petit peu bizarre. Je vous conseille de pas le mettre à fond mais juste un tout petit peu en dessous pour que ce soit net et joli, et donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que la version PSVR, j'ai pas eu l'occasion de la tester,
et la version de PSVR est corrigée et apparemment elle est très belle maintenant. Donc voilà. C'est pour ça qu'on commence à en parler. Là, on va en parler un peu plus parce que c'est sûr que ça fait pas envie. Quoi. Tu dis, on va tester un truc, si c'est pour le fracasser à cause de ça, c'est pas la peine.
Bah non, c'est dommage, surtout que le jeu est bon et quand même est vraiment cool, quoi. Et puis c'est un petit bonbon, c'est un bon passe-temps, et donc voilà. Et puis c'est tout. C'était tout pour moi pour Star Wars Pinball VR que je me referai de temps en temps pour le plaisir. Et puis voilà.
Ouais, mais quoi de plus de rajouter? Que veut dire qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ah oui, si, je voulais dire un petit Avatar, Avatar Frontière, Pandora.
Tu t'es pris pour Yoda?
Ouais.
Tu t'es pris pour Yoda, en phrase, non?
Bah oui, mais tu me parles de Star Wars, moi forcément, ça me perturbe. Mais Avatar aussi, ça me perturbe bien. Frontiers of Pandora qui est sorti, donc là on parle de jeux plats, hein, on parle pas du tout de VR.
Pocahontas 2, non?
Ouais. Oh putain. Alors ça.
C'était facile.
Ouais, c'est facile, et puis c'est du vu et revu, quoi.
Je sais.
Frontiers of Pandora qui est un jeu. Alors là, il n'y a rien d'annoncé du tout. Hein. Il y a juste Frontiers of Pandora qui est annoncé. C'est juste une petite envie, un petit truc perso. Ce truc-là, je le verrais bien en VR. On vous a déjà parlé de Snowdrop, le moteur graphique de Ubisoft qui est en fait justement développé pour la nouvelle génération de jeux Ubisoft et qui a la particularité qui dans un de ses studios donc c'est Blue Byte à Düsseldorf qui travaille justement pour rajouter des fonctionnalités VR sur le moteur graphique Snowdrop. Et ça m'a fait marrer parce que cet avatar est justement développé par Ubisoft Düsseldorf. Donc, potentiellement, Blue Byte en fait, qui font le moteur, sont dans les mêmes studios que ceux qui développent le jeu Avatar. Et justement, quoi de mieux que Avatar en VR, parce que c'est quand même le thème du jeu. S'il y en avait deux à faire en VR, ce serait Ready Player One et Avatar. Voilà. C'est pas du tout une rumeur, c'est pas du tout un truc, c'est juste un petit truc que je voulais dire.
Une envie.
Ça serait tellement dommage d'avoir un avatar sur du plat, alors qu'on pourrait. Ce qui me fait sauter au plafond, en fait, la raison de mon intervention à ce sujet-là, c'est qu'Ubisoft, quand ils communiquent et qu'ils disent Avatar Frontier of Pandora donne vie au monde séduisant de Pandora, avec toute sa beauté et ses dangers, dans une expérience immersive et ouverte. Alors, expérience immersive, il faut arrêter. Stop, il faut arrêter.
Oui, il faut arrêter.
Expérience immersive, c'est de la VR, le reste, c'est pas immersif.
En même temps, ils peuvent pas dire dans une expérience plate, tu vois. Ça,
non,
c'est
mais
pas
tu dis pas, tu dis pas, tu dis pas. Avant la VR, t'entendais parler d'immersion dans un jeu vidéo, toi?
Ah bah oui.
Ouais, tu disais Mario 64, vous allez être complètement en immersion dans Mario 64, parce que c'est en 3D.
Surtout Mario 64. Ah bah oui, bien sûr. À l'époque, justement, c'était être plongé dans un univers. Ouais, bien sûr.
Ah ouais. Alors, d'accord. Peut-être qu'il le disait. Je suis d'accord.
Sauf que maintenant, ça passe.
Sauf
plus.
Que maintenant, ça passe plus, parce que expérience immersive, c'est de la VR. C'est pas. Disons que ça te fait marrer quand on te parle d'expérience immersive. Quand t'as connu la VR, tu te dis c'est quoi, c'est pas. Ça rien d'immersif, ça. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'espère qu'un jour, Ubisoft... Mais il y a quand même toujours ce lien de Blue Byte, Düsseldorf, qui, Alexander Frey, qui avait quand même déclaré, l'une de nos principales ambitions est de créer nos propres titres VR, mais nous sommes également très ouverts à la collaboration sur d'autres projets. Nous avons commencé ce projet en novembre 2019, en parlant du développement des outils VR sur Snowdrop. Et avons rapidement vu son potentiel. Nous avons augmenté le nombre de personnes qui y travaillent, en partie parce que nous avons réalisé que la combinaison de Snowdrop et la VR serait quelque chose d'utile pour de nombreux projets à travers Ubisoft. Donc ça, là, c'est une citation de Alexander Frey, qui est programmeur principal chez Blue Byte Düsseldorf. Et quand on voit que ce avatar est développé justement, entre autres, par Ubisoft Düsseldorf, tu te dis que là, il y a beaucoup de choses qui pourraient coller, mais sans aucune preuve pour le confirmer. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Qu'ils arrêtent de nous dire on va partir sur Pandora sur un écran plat avec une manette. Non, on va en VR sur Pandora. Au moins, tu es sur Pandora. Tu sors du boulot, tu mets ton casque. Allez, moi, je vais sur Pandora.
Ouais, ça serait pas mal. Même si je ne suis pas un gros fan de la licence, c'est vrai que ça pourrait être quand même pas mal. C'est plutôt joli.
Ça peut être chouette, ouais. Ouais.
Ça peut être chouette. Bon. À voir, si on a entendu par Ubisoft,
s'il vous plaît.
Juste pour nous, juste pour
nous,
une petite version VR. Voilà. Allez, et du coup, je pense qu'on a fait le tour.
On a fait le tour.
On a fait le tour, impeccable. On se retrouve du coup dans 2 semaines. Moi, j'ai hâte d'y être du coup maintenant, parce qu'on va vraiment faire de la merde et ça va être cool.
Pour
parce qu'en général, Voilà, les émissions de merde, en général, c'est celles qui fonctionnent le mieux.
C'est celles où on rigole le plus.
C'est celles où on rigole le plus. Donc, du coup, bah, j'espère que vous serez là dans deux semaines autour d'un VR pour nous suivre. Je le répète, venez nous rejoindre sur le Discord parce que c'est très bien et parce qu'il y a des gens bien, bien sympas. Je ne parle pas de Laurent, mais les autres.
On peut discuter, surtout.
Et en plus, on peut discuter, et ça, c'est bien. Et la discussion, c'est ce qui fait avancer l'humanité, mon petit Lolo. Et donc il faut garder le contact et...
Ah tu parlais parce que je t'entendais plus en fait.
D'accord. Bon, bah voilà, très bien, c'est QFD. Et puis voilà, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applications de podcast, et si on n'y est pas, bah, c'est que c'est des applications de merde. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur la chaîne principale, sur Vrac, et essayez de venir sur Vrac pour regarder, envoyer des bots pour faire des vues sur nos vidéos, parce qu'à chaque fois ça fait des putains de bides et c'est un petit peu chiant.
Et bah c'est sûr que passer ne serait-ce que 3 ou 4 heures sur une vidéo pour faire 30 vues, t'as plus envie d'en faire quoi après.
Allez voir ce chef-d'œuvre qui est Horror Adventure VR. Je veux dire, si vous n'avez pas vu ça, si vous êtes un fan de VR, que vous n'avez pas vu cette vidéo-là, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Voilà, j'ai pas peur des mots, c'est clair net. Alors là, plus sérieusement, voilà, on a besoin un petit peu de, bah, de votre soutien.
Un soutien.
Comme toujours. Je sais qu'a priori, non plus, ça intéresse pas trop les gens, mais mettre des petites étoiles sur l'application de podcast d'Apple pour le podcast, ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Donc on compte sur vous aussi pour ça. Ça pourrait être sympa. On ne demande pas de pognon, on n'a pas de sponsor. On fait ça un petit peu pendant notre temps libre, même complètement, et puis en fonction de l'énergie que nous avons. On puise au plus profond de nous pour vous proposer le site VR4Player et le podcast autour d'un VR et les chaînes. Donc voilà, un peu d'amour, beaucoup d'amour. Nous, on a beaucoup d'amour pour vous. Et puis, on vous fait des bisous. Et puis, à dans deux semaines.
Voilà, ciao. À dans deux semaines. Ciao tout le monde.
Ciao, ciao, ciao. 'Fin la plus random foutraque que j'ai fait, je pense, depuis des...
Je n'entendais pas du tout ce que tu disais, en fait. Ça faisait la même chose que ce que tu me disais, ça coupait, puis pendant 10 secondes, j'avais du blanc.
Ouais, non, mais j'ai eu ça pendant plein de fois sur l'émission. Je pense que ça va être pas mal. Je pense qu'il va y avoir des moments de malaise hein, dedans.
Dans celle-là.
On verra. Ouais, dans celle-là.
À cause de...
Bah, à cause de ça, à cause des blancs.
Ah oui, parce que des fois, on s'entend pas, donc du coup, on se coupe la parole, on se...